Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une émission très spéciale, puisque c'est une émission sur le thème de la sécurité, du hacking. Et voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé sur ma chaîne ici, donc voilà, ça fait du bien. On va pouvoir parler de plein de choses hyper intéressantes avec mes deux invités, que je vais vous présenter maintenant, qui sont Vincent.
Enchanté, bonjour.
Vincent, tu es le directeur sécurité de N26.
C'est ça.
Vous connaissez déjà Vincent, il a fait un caméo sans être vraiment là dans ma vidéo où je vous présentais cette émission. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que cette émission ne serait pas là sans lui, donc je veux un tonnerre d'applaudissements maintenant dans le chat pour Vincent, qui est à l'origine de tout ça en fait, on peut le dire. Voilà.
Je pense que c'est beaucoup de gentillesse qui sont dites ici, non, c'est vraiment génial d'avoir
ce projet. Tu as un tonnerre d'applaudissements pour toi, c'est bien légitime. Et mon deuxième invité, c'est Bitka, qui est une star d'internet, on peut le dire.
Voilà. Pas vraiment. Mais...
Depuis ton passage, où ça? À Popcorn. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu là-bas. Il y a beaucoup de claps, toujours beaucoup de claps. Bitka, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie, tout simplement?
Moi, je suis en partie chercheur en cybersécurité et en partie développeur d'outils open source pour nos amis les hackers.
Ok, donc tu es un hacker gentil.
C'est ça.
C'est ce que j'ai vu sur la vignette Popcorn.
Voilà, je suis un white hat.
Voilà, c'est ça. Et donc, t'es passé chez Popcorn pour parler de hacking, c'est quand même ouf. Tu peux juste expliquer comment ça s'est passé? Parce que parler de hacking sur les antennes... les plus publics, quoi, c'est stylé, quoi.
Alors en fait, mon coloc est le développeur de l'application Run Game qu'ils utilisent dans Popcorn pour leur quiz. Et du coup, il était en relation avec le rédac en chef.
Via coloc interposé, du coup.
Voilà, via coloc interposé. On a eu le rédac en chef qui soit aussi ami de Popcorn de mon coloc. Et on a bu des bières, j'ai discuté un peu de ce que je fais dans la vie. Il fait, mais c'est trop intéressant.
Viens dans Popcorn, trop bien. Bah, GG à toi, j'ai vu le passage, c'était excellent. Je pense que la communauté était unanime pour dire que t'as fait t'as montré une belle image de l'infosec. Donc ça fait trop plaisir. Bonne technique ça, le colloque, je le retiens pour les petits passages. Je vais vous présenter un petit peu quel est le programme de la soirée. Je tiens à vous dire déjà qu'on a énormément de choses à voir. C'est pas sûr qu'on arrive à parler de tout, parce que c'est un gros morceau, voilà. Les thèmes de la cybersécurité, qu'est-ce que c'est être un hacker, qu'est-ce que c'est découvrir une vulnérabilité, qu'est-ce que c'est contacter une entreprise pour la prévenir qu'elle a des failles, comment les entreprises peuvent faire pour se protéger, qu'est-ce que c'est un bug bounty. Bon, voilà, déjà, c'est déjà trop, en fait. Donc... Il y aura des sélections. On va essayer d'être le plus exhaustif possible. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, comme d'habitude, si vous en avez. Et puis voilà, quoi. Truc que j'oublie de faire à chaque fois, mais c'est les petits call to action des familles. Je ne suis pas encore un streamer officiel. Je me mets à l'exercice, voilà. Donc, ne critiquez pas. Mais n'hésitez pas à suivre cette chaîne, OK, si vous ne voulez pas rater les prochains lives, qui sont tous les mercredis à 20h, 20h05, 20h10. 20h30, ça peut arriver. Ça peut arriver, surtout quand il y a Emmanuel Macron qui est en train de parler en même temps. Et vous abonner à la chaîne YouTube et allez cliquer sur le petit lien qui passe dans le chat pour aller découvrir N26, notre merveilleux sponsor, sans qui rien ne serait possible. Et dont l'ambassadeur est présent aujourd'hui, Vincent. Vincent, avec qui on discute depuis un moment déjà. Ça fait combien de temps qu'on discute ensemble?
Je pense que ça fait à peu près 2 ans quand tu avais contacté certaines des équipes chez N26 et on t'avait reçu pendant quelques jours.
Ouais,
on a fait un peu visiter les locaux.
Je suis venu à Berlin.
C'est ça.
Quel souvenir. Non, en vrai, j'ai trop aimé découvrir la ville. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé en Allemagne. Et puis voir tout de l'intérieur d'une, comment on dit, une fintech.
On dit ça, ouais. C'est une fintech, une banque en ligne.
Une banque de la finance, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Il y a des fintechs qui ne sont pas des banques et vice versa, qui offrent des produits financiers et autres. Mais okay. Nous, on est une banque en ligne, une banque avec un agrément bancaire, une vraie banque. Quoi.
Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as un. C'est moi. Waouh. Oui, donc ça, c'était la vidéo que j'avais fait quand j'étais venu chez vous. Et puis à ce moment-là, tu m'avais accueilli gentiment. Et on peut le dire, j'avais passé 2 jours à ta charge et tu m'as expliqué que des trucs comme ça pendant 2 jours. C'est l'avantage de faire des vidéos sur YouTube, c'est qu'on peut avoir des profs particuliers. Donc c'est cool, c'était sympa, ouais.
Ah, c'était excellent. Enfin, moi, ce que je recherchais, c'est de montrer que le fait qu'on peut ouvrir les portes d'une banque à des personnes, qu'on doit évidemment faire un peu attention, et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, et que cette image de la banque qui est fermée,
où on peut rien voir, secret
derrière et autres, c'est un peu superflu, et on peut se poser des vraies questions. Et je pense, voilà, c'est un peu ces images-là, c'est de voir comment commence un paiement et où il finit, toutes les actions.
C'est ça
et tout
que j'ai ça, découvert.
Te montrer aussi des logs de quoi. Comment ça marche exactement cette transaction?
C'est ça, en fait, moi je ne m'attendais pas à ça en venant. C'est, je sais pas, tu te réveilles pas le matin en disant je vais aller chez CIC, ils vont me montrer leur backlog et je vais regarder ce qui se passe dedans et comment tout marche et quels sont les outils, les technos qu'ils utilisent, quelle est leur sécurité. Une banque qui parle de sa sécurité, tu vois, ça craint normalement. Mais là, en fait, moi je suis arrivé et clairement j'avais. Alors, dans le respect du cadre légal, bien entendu. C'est-à-dire que régulièrement, je ne devais pas regarder certaines choses, etc. Mais c'était hyper intéressant, ouais, d'aller vraiment loin dans les profondeurs. Et j'ai vu des trucs pas propres. Hein. J'ai vu des trucs dans le système, pas chez N26, bien entendu, mais dans le système bancaire, des outils, des technos, mais qui remontent à des années, je sais pas, bah, au moment où les banques se sont numérisées, quoi.
Mais t'avais
du FTP, du scrapping tous les jours.
Du langage aussi, tu vois, ouais. De plus en plus. Ouais. Mais après, ça fait les bonheurs de certains chercheurs en cybersécurité aussi, j'imagine.
Ça me donne du taf, moi, tous ces vieux codes, les gens les ont un peu oubliés. Puis il y a aussi le côté, les banques. Finalement, il n'y a pas grand monde qui essaie de hacker des banques parce qu'il y a trop de risques et s'assurer, c'est protéger. Enfin, ouais. C'est pas la meilleure technique.
Ouais.
C'est bien dans les films, mais.
Mais dans la réalité, c'est pas les banques les plus juicy, quoi.
Je pense pas, non.
Il y a aussi plein, quand on regarde après dans la banque, il y a beaucoup de niveaux de sécurité. Ils font très attention à que ce soit pas simplement bah, j'ai trouvé une faille de sécurité et même si je l'exploite directement, je ressors avec l'argent. Il y a tellement de niveaux opérationnels aussi derrière qui vont plus loin que le technique et on est c'est très très contrôlé, très audité. Mais après, je pense qu'il y a des entreprises qui essaient d'approcher la sécurité ou des fintechs de manière différente et d'utiliser des méthodes un peu plus modernes, se basant sur ce que font des grandes entreprises dans le secteur, les GAFA et autres ont des équipes de sécurité qui sont absolument incroyables et des approches de la sécurité. Enfin, il y a eu quelques problèmes avec Facebook ces derniers temps ou des choses comme ça, mais bon, ça arrive.
Ne pas en parler. Tiens, je sais pas si vous savez, parce que ça sort un peu du cadre de la technique, mais comme c'est du légal par rapport à la Sécu, peut-être que vous avez des informations. Mais il y a Hardis qui me disait ce matin, si on était aux États-Unis, cette histoire avec Facebook, là, de leak, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer ce qui s'est passé avec Facebook récemment?
Je n'ai pas suivi comment il s'était fait hacker, j'ai su qu'il y avait beaucoup de données qui sont sorties, dont le numéro de téléphone, les mails, tout ça.
Ouais. En gros, méga leak, je sais pas si t'as une.
J'ai pas non plus suivi exactement. Alors, moi, ce que j'ai compris.
Fais gaffe à ton micro.
Pardon,
rapproche-le bien.
Du coup, en 2019, il y a eu cette leak. Et en gros, ce qui se passait, c'est pas. Il n'y a pas eu un hacker qui a volé une base de données. Il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait une façon de scraper ou de collecter les informations, certaines informations qui étaient publiques sur les profils Facebook, mais sans limite. Donc, c'est de l'information qui était publique. C'est par exemple, si jamais tu choisis dans tes.
Avec la recherche Facebook, le Graph Search.
Alors,
c'était pas ça.
Peut-être.
Ça me dit un truc.
Ouais, ça va dépendre. Ils ont tellement de features en fait Facebook que tu peux avoir l'information de plein de manières différentes par les services d'ads, par les posts, par les amis, par les groupes. En fait, il y a plein de façons d'avoir accès à l'information.
Et du coup, il y a des gens qui se sont amusés à créer une grosse base, quoi.
Et je pense qu'à la taille de Facebook, tu vois, quand tu as une entreprise dans laquelle tu as 1 million de clients, 10 millions de clients. Quand tu passes sur du Facebook et tu parles de milliards de clients, c'est vrai que détecter une anomalie, le 1 million de requêtes, c'est pas si anormal
que ça.
Donc ça devient bien plus difficile de détecter des patterns malicieux à grande échelle. Et je pense que c'est ça qui leur a posé problème, parce qu'ils ont eu un type de faille similaire il y a quelques années où il y avait un token qui avait utilisé une façon d'escalader des privilèges, d'avoir accès à des comptes, et ça a été exploité à grande échelle pendant une grande période de temps sans qu'ils le détectent, alors que c'était vraiment fraudulent. C'est cette grande échelle qui doit être complexe pour eux.
Il y a tellement d'utilisateurs sur Facebook, t'es noyé au milieu de ce bruit.
C'est vrai que les échelles sont complètement différentes, quoi. Je pense qu'un site français, s'il a 1 million de données qui se baladent, ou un million de requêtes, c'est des échelles où on le voit.
Bah,
quoi.
Il crash, c'est pas celui qui
est. C'est pas un truc récent.
Oui,
c'est le NT de je sais plus quoi qui a crash il y a pas longtemps. Là. Ils ont dit que c'était OVH.
Et après,
ils se sont repris, ils ont dit ouais, en fait, non, c'est une attaque informatique. Ah là là, toujours des champions. Mais ouais, du coup, la question de Hardisk, c'était si on était aux États-Unis, on ferait une class action. Alors, je sais pas. Et je sais pas si vous vous souvenez de Equifax et tous les gros leaks, mais tout le monde était payé, était pas payé du coup, mais était dédommagé de l'intrusion dans la vie privée que ça peut représenter. En France, on a des trucs comme ça. Est-ce que là, moi, si j'ai des trucs chez Facebook, je peux aller leur envoyer une petite lettre pour qu'ils me fassent un virement? C'était ça la question, en gros. Donc, vous savez pas.
Légalement, là, je pourrais pas te dire.
Ouais, mais c'est intéressant, en vrai. Moi, ça m'intéresserait s'il y en a, en tout cas, s'il y en a dans le chat qui sont un peu plus juristes et tout.
Tu veux aller gratter de la thune à Zuckerberg?
Mais non, mais ça peut, voilà, si on peut se mettre bien, un petit billet, tranquille. Moi, sans rancune.
Alors, je trouve que on a des autorités. On a la CNIL hein, et, en France. Après, on a aussi, dans chacun des pays, en Allemagne, on a aussi des autorités spécifiques pour ça. Et aussi, il y a le gendarme européen. Hein. D'un point de vue européen, je sais que la façon dont la plupart des entreprises sont contrôlées, j'imagine que dans notre entreprise, ça doit être sûrement la même chose, où si jamais on traite les données de nos utilisateurs de manière pas légale, on va dire, on les garde trop longtemps, on ne classifie pas, on ne quantifie pas, on ne justifie pas la nécessité de procéder à ces données, et on donne cette information à nos utilisateurs, le gendarme va venir toquer à la porte, et c'est très très strict. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a je ne vais pas donner le nom de la boîte, mais une boîte qui a une faille de sécurité, je me demande si c'était pas Uber d'ailleurs, et qui a remonter la faille de sécurité qu'ils avaient eue, je crois 22 jours après l'incident, et le gendarme est venu toquer, leur a dit non, tu dois déclarer, c'est un incident de sécurité, après 3 jours, s'il y a des informations des utilisateurs qui ont été...
Et du coup, volées, amende.
Et du coup, directement amende, et les amendes peuvent aller très hautes, et parce qu'on voit que dans certains pays, même, c'est du pourcentage, pas que du profit, mais sur le chiffre d'affaires.
Et là, ça peut chiffrer. Surtout quand tu t'appelles Google, ça peut être vraiment vénère.
Ou One and One. Ouais. Peut-être que vous avez entendu parler de cette boîte d'info, de télécom et autres, qui ont eu ça. Ça s'est passé il y a 2 ans, et c'était l'ordre de millions d'euros. Et c'est très bon. Moi,
je... Oui, ça fait que ça devient plus juste un ticket que tu peux acheter pour contourner la loi. Parce que quand tu as la taille de Google, 2 millions, c'est un ticket de métro. Quoi. Tu rentres pour bypass le système. C'est tranquille.
En gros, je pense pas que l'amende elle te revienne chez toi. Si toi tu viens de te plaindre demain à dire
ouais,
Facebook,
c'est ça le problème.
Je suis pas sûr qu'en France tu puisses.
Dommage. C'est dommage ça. Parce que moi, ouais, vraiment, je suis pas contre quoi. L'argent c'est génial. Première question toute simple. Est-ce que vous pourriez me définir ce que c'est le hacking? C'est quoi un hacker?
Je vais dire moi que c'est du bug contrôlé.
Ok. J'ai une intuition de ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu peux expliciter?
Non, je dirais que le hacking, souvent, ça va être de prendre quelque chose et c'est d'en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire quelque chose qui a été fait pour rendre un service, pour pas qu'une utilité. Ouais. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Okay. Qu'est-ce que je peux réinventer en ayant que ça? Voilà.
Et c'est marrant parce que la définition, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle va bien au-delà de la cybersécurité, en fait.
Ouais.
Donc en fait, les gens font peut-être du hacking sans faire exprès de temps en temps, tu vois, quand ils contournent, quand ils utilisent, je sais pas moi, les gens du marketing qui utilisent on peut prendre l'exemple de Craigslist et tout, tu vois, qui utilisent ça pour derrière propulser leur...
Mais en fait, même le mot hacking, au départ, il venait pas pour la cybersécurité, il vient d'abord de ce côté-là des créateurs qui s'étaient modifiés, qui après, du coup, étaient récupérés par toute la partie cybersécurité, les pirates, les machins.
Ouais.
Et maintenant qui revient, et on voit de plus en plus sur Internet des life hacks, des trucs, et on utilise le mot
des
hack.
Des growth hacks.
Mais en fait, qui était la vraie utilisation du mot hack.
D'accord, donc ça revient à son origine peut-être. Tu es d'accord avec cette définition?
Tout à fait. Mais c'est génial aussi de montrer que le hacking, c'est pas simplement le côté méchant noir.
Capuche.
Noir et tout. Non, mais c'est vrai que t'as une capuche noire aujourd'hui.
Mais c'est aussi
pour être plus crédible.
C'est ça, c'est pour la street cred.
Mais voilà, il y a plein aussi de choses qui sont de la création, qui sortent de hacking. Parce que souvent, les personnes se disent hacking, c'est les personnes qui cassent, qui rentrent, qui pénètrent, qui détruisent, ou voilà, breaking. Tandis qu'il y a plein de choses sur lesquelles l'innovation et autres, c'est on avait ce téléphone, ou je sais pas quoi, on s'est rendu compte que, en plus d'utiliser le signal simplement pour envoyer une information analogique, on peut peut-être passer d'autres informations, essayer de détourner l'usage.
Voilà, ouais. Récemment, il y a un gars qui a fait un site pour accéder au vaccin plus rapidement, où il se base des données publiques de Doctolib pour créer un truc. Et c'est un peu ça, en fait. Il a des données publiques. D'ailleurs, qui n'était pas public, il leur a demandé de l'accès.
Il met des bouts de scotch et puis en fait, à la fin...
Il dit, allez, moi j'ai un truc qui est pas mal avec ce que je pouvais faire. Est-ce que vous pouvez pas m'aider un peu pour aller un peu plus loin, que ce soit un prototype
On peut dire que c'est un récurrent. Ouais.
Ça me fait penser à ton invité que tu avais, je crois, il y a une ou deux semaines, qui avait fait ce bot pour Deliveroo.
Oui.
Je crois. Tu vois, c'est vraiment voilà. Ouais.
Oui, c'est cet esprit-là un peu.
C'est pas malicieux. C'est...
Il y a un autre terme qui est hyper connu du grand public dans toujours ces trucs-là mystiques, hacking, dark web, machin, c'est white et black hat. Alors ça, moi, j'en ai entendu parler que via des gens, c'est-à-dire que j'ai jamais vu discuter avec un professionnel qui m'a parlé de ces choses-là, tu vois. C'est un terme qui apparaît, j'ai l'impression, que dans la pop culture et qui est utilisé par presque personne en réalité, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient ce truc?
En fait, c'est pour dire juste légal ou illégal, mais c'est des termes qui ne servent pas vraiment,
ouais,
parce que
c'est...
personne ne va se revendiquer Black Hat. Et de toute façon, c'est juste dire, c'est un criminel. Après, il utilise la cybersécurité.
Donc en gros, c'est chapeau blanc, je suis gentil, chapeau noir, je suis méchant. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont au milieu. Et du coup, c'est des grey hats.
Ouais, tu peux définir ça, en fait, si t'es pas d'accord avec ton gouvernement et que tu fais quelque chose qui est interdit par eux, mais que t'estimes que t'as le droit, que éthiquement, ça va être ça, tu vas...
Si par exemple, tu suis ta morale, mais que ta morale outrepasse le légal...
Ça serait du grey hat.
Ok.
C'est pas mais ça, ça va être à l'appréciation de
chacun. C'est un peu des termes. C'est un peu des termes fourre-tout, j'ai l'impression. Ouais.
Ah, et je pense que ce que tu disais aussi au niveau de la loi, t'as, de temps en temps, t'es mis dans une situation où tu trouves quelque chose, où t'es encouragé à essayer de trouver quelque chose qui ne va pas. Et en fait, par défaut, sans faire exprès, tu as trop utilisé tes accès. T'avais l'arrêté Bluetooth, qui est très connu, qui était comment est-ce qu'on... À partir de quand on dit que c'est quelque chose qui est malicieux et qu'on dit que ça a été quelque chose qui doit être...
Alors, si je me souviens bien, lui, c'était avec des recherches Google. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il était à base de moteur de recherche. Il tombe sur une page web qui était sur un serveur dont les propriétaires ne voulaient pas... ils pensaient que c'était des données privées. Et du coup, il était condamné pour ça, si j'ai compris.
Ce qui a été sanctionné, c'est pas le fait qu'il ait eu accès, ce qu'il soit diffusé. Maintenu. Et c'est vrai ça. C'est la notion de se maintenir dans le système... alors qu'il n'y avait pas besoin d'être maintenu dans le système pour remonter le problème. Et c'est là où ça devient, comme je dis, ça veut dire très peu de choses. Pour moi, un black hat, c'est vraiment le côté, comme tu dis, c'est criminel, et tu vas utiliser, et même l'intention est purement criminelle derrière.
Mais l'intention est importante, je pense.
Oui, tout à fait. L'intention est,
même dans les jugements dans légal, l'intention est énormément... a beaucoup d'importance.
Vraiment. Et je pense surtout aussi, de temps en temps, c'est un peu blessant quand t'as des chercheurs, tu vois, qui essaient vraiment, ils ont une bonne attention, ils essaient de tout faire. Et la loi n'est pas vraiment de leur côté, parce que c'est des lois qui sont de temps en temps un peu vieilles et autres. Et d'être mis dans une situation où tu dois acter, t'as l'impression de faire des choses qui sont un peu illégales, alors que non, t'essaies de faire le mieux avec l'information que t'as et ce qu'on t'explique. Et je crois que l'ANSSI, aussi à ce sujet-là, l'ANSSI s'est mis à supporter un peu ce genre d'initiative en permettant à des personnes qui étaient mises dans des situations où ils avaient peur de remonter une faille, en les autorisant à remonter ces failles directement à l'ANSSI ou au COSI, et que le COSI, après, allait s'occuper de contacter l'entreprise.
Nous, on le fait, ça, par exemple, avec ESWIAC, on a un service zéro disque.
Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as mentionné ESWIAC. C'est l'occasion d'expliquer aussi ce que tu fais
dans
la vie.
C'est une plateforme de bug bounty. Le bug bounty, qu'est-ce que c'est? Ça va être, en fait, de mettre en relation des hackers et des entreprises. Les entreprises veulent se protéger, les hackers, ils veulent hacker des trucs. Et ils veulent faire de l'argent avec ça.
Ouais.
Et du coup, de dire, venez nous hacker, nous on est open avec ça. Et si vous trouvez des bugs, on vous récompense, on vous file des sous.
Okay.
Et ça se passe comme ça. Et nous, on est là
pour connaissent Corben, c'est notamment. Il est à l'origine du truc. Ouais, voilà. À ESWIAC, pardon, je t'ai coupé. C'était pour préciser.
Oui, on a un service qui s'appelle Zero Disclose qui permet de remonter des bugs anonymement.
D'accord.
Et nous, on s'occupe de faire le lien après et on signe tout ça. On laisse la propriété du bug au hacker sans pour autant donner l'identité. Après, souvent, ils se mettent en relation parce qu'il n'y a pas de problème, mais...
Mais cette relation-là entre entreprise et hacker qui trouve des failles, je la trouve hyper intéressante. Je pense qu'on pourra revenir dessus parce que c'est un pavé, quoi. Il y a énormément de choses à dire. On aura, c'est sympa parce qu'on aura à la fois le côté plus marque. Chez N26, il y a un bug bounty, donc tu vas pouvoir nous raconter un peu comment ça se passe, toi, à côté entreprise, où tu autorises quand même à des hackers à trifouiller ton produit. Donc c'est quand même un truc spécial à raconter. Et toi, tu pourras peut-être nous parler de, je sais que tu en fais un peu moins maintenant, mais de la partie bug bounty et comment, en tant que, enfin vous peut-être dans qui regardez ce live, vous pourriez gagner de l'argent en aidant des entreprises à mieux se protéger. Donc c'est quand même intéressant comme concept. Vincent, tu m'as parlé d'une anecdote et je me suis dit, ok, si je dois montrer aux gens qu'est-ce que c'est le hacking éthique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de raconter comment une de tes aventures s'est passée. Parce que du coup, avant d'être chez Vinci, t'as fait des recherches de vulnérabilité, tu continues à en faire toujours maintenant. Sur ton toit libre, j'imagine que tu te balades sur des sites de tout, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, tu m'as parlé d'une vulnérabilité que tu as trouvée dans un grand télécom français, on ne peut pas dire les noms, d'accord, mais dans un grand télécom français, tu as trouvé quelque chose en 2017, si je crois bien. Ouais, c'est ça.
C'est ça, ouais, 2016.
Est-ce que tu peux nous expliquer tout à fait ce qui s'est passé?
Et juste pour mettre un peu dans le contexte, c'est pas on peut pas mentionner les noms ou quoi que ce soit, c'est pas secret ou ce genre de choses.
Mais
c'est
si, aussi... ça fait bien de dire ça. C'est secret défense.
Non, mais c'est surtout aussi ne pas se dire que ces personnes-là ont fait des choses mal. Absolument. C'est des choses ils ont super bien réagi de l'autre côté, des choses qui sont très bien.
C'est ce que je dis toujours, quand on voit des chercheurs qui publient des bugs sur la société, bah vous savez que maintenant, cette société, elle a plus le bug en fait. Et que pendant tous les autres qui n'ont pas voulu autoriser les chercheurs, bah eux, ils ont peut-être potentiellement encore ce même bug.
Tout à fait. Et nous, on le voit, toutes ces entreprises qui arrivent et qui font, mais non, la sécurité, ça ne nous concerne pas, et on fait pas de bug bounty programme, et on n'encourage pas à chercher des vulnérabilités parce que l'on n'en a pas. Et la réalité, souvent, c'est que si tu n'as pas de vulnérabilité, c'est que tu n'as pas assez d'équipes de sécurité qui cherchent à trouver les failles qui
apparaissent. On n'a pas de bug.
C'est ça. Ouais, c'est un peu la technique de l'autruche, quoi.
Réellement.
Voilà. En fermant les yeux, tu n'as plus de bug. C'est fou. Hein. Ça fonctionne hyper bien.
Jusqu'à un certain moment. Voilà, où l'entreprise ferme au bon moment. Mais ce bug était. Enfin, ces problèmes-là étaient assez marrants puisque c'était déjà pour montrer que tu n'as pas besoin tout le temps d'avoir beaucoup de connaissances pour trouver des failles qui sont très impressionnantes et que c'est le niveau investi n'est pas tout le temps proportionnel à l'impact d'une faille. C'est quelque chose que vous allez voir avec ce type de faille. La deuxième chose qui était marrant, c'est de voir comment. Ça se passe lorsqu'on remonte des failles avec des grands acteurs, par exemple des télécoms français.
Voilà.
et de voir des relations qu'il y a avec le gouvernement de temps en temps, parce que c'est des entreprises qui ont le support aussi d'entités nationales.
Toutes les entreprises ne sont pas regardées de la même façon par l'État, en fait.
Et aider de la même façon, ouais, aussi, parce que c'est des grandes questions. Enfin, si jamais tu as une énorme...
Si ton boucher ferme à cause d'une attaque informatique, c'est pas très grave. Par contre, si ton opérateur rend la moitié du pays inaccessible, c'est plus chiant.
Tout à
fait.
C'est
ça, si j'ai bien compris.
Exactement. Et même aller plus loin, ces systèmes-là sont utilisés par le gouvernement ou autre. Enfin, ça pourrait aller loin. Mais du coup, comment ça avait commencé? Je crois qu'à cette période-là, je cherchais des vulnérabilités chez N26. Je suis rentré chez N26, moi, en remontant des failles à N26. Et pendant cette période d'essayer de trouver des failles chez N26, à un moment, j'étais redirigé vers une page d'une box de mon opérateur que j'utilisais. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que j'essayais d'accéder à une URL d'un domaine de N26. Et moi, ça me redirigeait vers la page d'une de mes... de ma box et j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, en regardant un peu plus loin, je me suis rendu compte que ce domaine-là redirigeait vers une adresse IP de mon réseau local de chez moi. À partir de là, je me suis dit, c'est quand même pas.
Vraiment... En fait, si juste pour bien suivre, hein, mais tu avais une page de connexion d'une box dans ton réseau local.
Exactement.
Et alors que c'était pas
ma box.
C'était pas ta box.
C'était pas ma box. C'est du même opérateur. Mais pas la mienne. Et t'as du mal un peu à réagir sur ça. Tu essaies de penser à toutes les autres possibilités.
Oui.
Parce que ça serait trop gros. Tu n'es pas censé accéder aux box de.
Parce que ça veut concrètement, ça veut dire que soit t'as ton voisin qui s'est ramené avec sa box, qui s'est branché, qui a fait toc-toc chez toi, qui s'est branché, soit il y a un gros bug quelque part.
C'est ça. Et surtout, tu dis que c'est pas possible que ce genre de gros bug arrive et ne soit pas détecté dans des entreprises, ouais, qui soient si grosses. Et au final, si. Ce bug était présent et en fait, alors je sais pas si notre personne amazing de la
c'est
la
Gavin, régie, c'est Gavin son nom.
Gavin arrive à mettre un déchet. J'ai dessiné un petit schéma pour essayer de pointer les différentes
on va essayer
les éléments, il n'y a aucun souci.
Incroyable.
Voilà. Donc en gros, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que vous, vous êtes chez vous, vous avez le laptop tout en bas à droite. Et ça, c'est votre ordinateur quand vous êtes connecté chez vous à votre Wi-Fi de votre box. Et après, il y a la box. Et vous voyez que vous avez des adresses IP, enfin, vous connaissez sur des adresses IP qui sont similaires. Ça, c'est où. Mais votre box, chez votre opérateur, elle fait aussi partie du réseau de votre opérateur. Donc, il y a plein de box qui sont aussi toutes connectées au, on va dire, routeur du télécom. C'est énormément vulgarisé aux yeux de choses, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai mis en vert ce qui est normal. Ce qui est normal, normalement, c'est vous parlez de votre ordinateur à votre box, et de votre box, elle part au routeur du télécom, puis elle, ça va sur Internet. C'est le chemin vert. Et ça, c'est tout à fait normal.
Ouais.
Mais ce qui n'est pas censé être normal, c'est que vous, vous puissiez partir de votre ordinateur, parler à votre box, et après, via le routeur du télécom, parler aux autres box de tous les clients. Et quand c'est un gros opérateur, vous regardez combien, enfin, c'est des millions.
Parce que pour les gens qui sont peut-être pas hyper calé en réseau et tout.
Pardon.
Oui. Non, mais c'est normal. C'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer un peu dans les détails. Pour les gens qui ne sont pas hyper calés en réseau, là, ce que tu appelles un réseau ou un sous-réseau, c'est imaginez votre Wi-Fi chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez discuter avec tous les appareils qui sont dans votre réseau. C'est un espace clos. Donc, il y a une notion de privé aussi. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à votre imprimante qui est connectée à votre Wi-Fi, mais le voisin ne peut pas. C'est l'avantage, sinon il va imprimer des trucs.
Et c'est pour ça qu'on ne met pas de mot de passe sur nos imprimantes, parce qu'on se dit que sur notre réseau, a priori, il n'y a que nous.
Exactement.
Il y a plein de choses.
Normalement, un réseau, c'est censé être voilà, son domaine, son petit jardin. Quoi. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, si j'ai bien compris encore une fois, c'est que tu peux sortir de ton jardin et aller dans le jardin du voisin.
Et de beaucoup, beaucoup de jardins, de beaucoup, beaucoup de voisins. Et on parle de l'ordre de millions, tu vois. Et le problème, c'est
quand on
commence à taper à la porte et aussi à chercher là, tu te rends compte, mais attends, je suis sur mon réseau, parce que c'est du réseau local, en fait, tu n'es pas sur Internet, donc ouais. Tu sais pas si c'est chez toi ou chez quelqu'un d'autre, hein, en vrai. Et il n'y a pas que des box connectés à ce réseau d'un grand télécom, il y a aussi ces serveurs, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où tu commences à voir l'impact et l'importance de ce genre de choses. Et de temps en temps, quand tu es mis dans des situations comme ça, c'est là où ça devient intéressant. On va dire de la façon dont, comment est-ce que tu remontes ce genre de faille à un grand télécom en te protégeant, en faisant attention à ne pas faire peur de l'autre côté.
Ouais, parce que là, si chronologiquement,
oui.
Tu découvres ça. Déjà, si, pour préciser quelque chose, là pour l'instant, tu peux accéder à l'interface tu as accès au routeur des voisins. Est-ce que pour autant, en gros, c'est comme si tu étais à la porte de leur jardin,
ouais.
Tu peux toquer. Est-ce que pour autant, tu pouvais rentrer dedans et aller te connecter sur l'imprimante, par exemple. On prenait l'exemple de l'imprimante.
Alors, on a fait des tests, mais absolument pas. C'est là où on fait très attention. Du coup, je me suis dit, mais est-ce que tu fais très attention? Tu ne veux pas faire des choses illégales.
Bien sûr.
Tu ne veux pas accéder aux informations de n'importe qui. Tu ne veux surtout pas avoir d'informations personnelles.
Voilà.
Et du coup, je me souviens, on faisait des tests avec des personnes que je connaissais, des amis, qui m'autorisaient, même opérateur, et qui m'envoyaient un email en m'autorisant sur le papier, je t'autorise à regarder cette chose-là. Au moins, j'avais pas de problème.
C'est hyper malin. J'avais pas pensé ça. Je me suis dit, mais comment il va faire? Il est sur le point de découvrir un truc de ouf et il est bloqué par un truc légal.
C'est
et
ça.
En fait, t'as trouvé. C'est souvent. T'as trouvé un moyen.
D'avoir l'autorisation
d'un pote.
Et de trouver, oui, il y a des choses à démontrer, mais du coup, après, c'est un peu théorique dans le sens où tu vas essayer chez 2-3 personnes qui t'ont autorisé, mais après,
tu
en déduis que c'est possible
chez les millions,
mais chez d'autres. Mais après, aussi, il y a cette notion que à un certain moment, c'est plus très important d'aller démontrer que c'est possible partout.
Oui, si tu l'as prouvé 3 fois, c'est bon.
Voilà, et que ça soit 10 000 ou 100 000, c'est important pour l'opérateur.
Le but, c'est d'apporter ce qu'on appelle un proof of concept, un POC.
Ouais.
Juste. Le minimum requis pour te prouver que ta théorie elle fonctionne.
Ouais.
C'est-à-dire que si t'arrives ça sur une entreprise qui est réceptive à ce genre de contact, mais si t'arrives avec juste ça, souvent que t'arrives à leur prouver, bah allez, là je peux accéder à un PC arbitraire qui est dans votre réseau, ça suffit pour prouver que t'as accédé à tous les PC. C'est comme en maths, tu prouves une fois et tu prouves pour tout, tu vas pas t'amuser pour tous les nombres.
Et surtout, t'as pas besoin d'exploiter. Ce problème. Tu as besoin de démontrer qu'il existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Ah, mais comment tu démontres sans exploiter?
Tout à fait. Là, ça devient très. Ouais, c'est super complexe.
Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si, mettons, tu te rends compte qu'il y a de l'argent dans un truc que tu viens de découvrir, tu n'as pas besoin de montrer que tu es capable de le récupérer. Juste, en gros, que le bug existe et qu'il est exploitable. Mais en fait, je comprends. Alors, j'avoue, en fait,
souvent, c'est que les bugs, par exemple, pour une banque, ça ne va pas être j'arrive à voler de l'argent. C'est que j'arrive à voler ton token d'identification. Ouais. Si je vais avoir une 26 en leur disant, bah allez, j'arrive à récupérer ces tokens-là.
Oui, c'est la même chose que l'argent.
Ils vont comprendre que c'est voler de l'argent sans que j'ai besoin de le faire.
Ouais, d'accord.
Ça va plus être comme ça, en fait.
Ok. Bah, je retire ce que j'ai dit, du coup.
Alors, j'ai une expérience qui est un peu différente. Et, okay. Et je pense que c'est là où c'est génial. Enfin, parce que je pense
de
que
ça,
c'est la, ouais, mais c'est la façon de bien le faire. Et je pense qu'on n'a pas.
Oui. Non,
mais et moi, j'étais souvent dans des situations où tu peux pas bien le faire de temps en temps. Où t'aimerais démontrer d'une certaine manière. Et aussi, la réalité, c'est que de temps en temps, t'es un peu dans le vif de l'action. Et essayer de trouver l'exemple parfait sans exploiter. Et de temps en temps, moi, ce que je fais, remontant des failles à des banques et à différentes institutions financières, tu fais en sorte que t'impactes ton compte. Donc, tu vas montrer quelque chose qui n'est pas censé être possible, mais sur ton compte.
Par exemple, s'il y a un vol d'argent ou un. Bah, on va parler d'autres choses après, d'ailleurs, ça me rappelle ce dont tu voulais parler. Mais s'il y a un vol d'argent, tu te voles toi-même, quoi.
T'essaies de te voler toi-même ou que les damages ou l'impact sur l'entité que t'embête soit absolument minimum. Par exemple, tu vas voler trois fois un centime et tu vas montrer.
Ok, je comprends.
Sur les choses,
Du coup, pardon, je t'ai coupé sur l'histoire des box.
Ouais.
Mais au moment où tu découvres le poteau rose. Tu découvres que concrètement, j'aime bien mon analogie, ce que tu peux potentiellement aller dans le jardin de millions de Français. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu t'envoies un SMS au patron.
Alors,
bonjour monsieur.
qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors j'ai un peu de chance d'avoir été mis dans des situations où j'avais eu un peu peur dans le passé, de parler avec des avocats ou des personnes.
C'est pas la première fois.
De ne pas faire.
Ouais.
Fais attention à ne pas faire certaines choses d'abord. Et la première chose que je me souviens avoir fait, c'est prouver que directement au moment où j'ai vu que quelque chose n'était pas normal, rentrer en contact par plusieurs moyens, montrer que tu as abondamment cherché à rentrer au contact directement sans aller faire quoi que ce soit d'autre. Et de prouver cela, faire des prises, des captures d'écran de tes contacts à plusieurs médiums, mail, Twitter, appeler l'opérateur et tout ça. Et voilà, comme ça tu prouves, c'est pas que tu as essayé de tout faire.
Ouais.
À partir de là, commencer à regarder, voir, en fait, essayer de regarder, cette faille, ça va jusqu'où, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment est-ce que tu peux naviguer un peu plus loin dans le réseau pour voir les choses. Et après, c'est à toi de trouver un peu cette limite de, tu commences à tomber dans l'exploitation.
Ouais.
Donc, faire attention de ne jamais rentrer dans les systèmes. Mais par contre, mapper et montrer qu'il y a beaucoup d'éléments, montrer que non.
C'est intéressant l'ordre que tu donnes, c'est que d'abord, tu préviens. Pour protéger tes arrières. Et ensuite, tu essaies d'aller un peu plus loin et voir la criticité un peu de ce que tu viens de découvrir. Quoi.
Après, ça va toujours dépendre de qui on teste, parce qu'aller plus loin sans avoir eu d'autorisation au préalable.
Oui.
Enfin, moi, j'ai rien qu'en testant juste. Parce qu'en fait, là, on se retrouve dans les services.
C'est vrai que c'est un cas particulier, je pense.
Ouais, mais même, vraiment, on se retrouve dans les services internes. Et moi, ça m'est arrivé sur des sites, je fais des tests. En parlant de l'ordre d'être là, je fais une requête en disant, là, j'ai une piste, et je crash le site complètement.
Ah ouais.
Et si tu commences à cracher des trucs comme ça derrière alors qu'ils t'avaient pas autorisé et tout,
ils seront pas contents.
Même si,
c'est
la
légal.
Team de sécu qui est en face, même si illégal ou pas, même si t'as la team de sécu en face qui sont. Ce qu'il a fait, c'est trop bien, il nous a contacté proprement, il a fait ça bien. Il suffit que t'aies quelqu'un de plus haut placé qui dise ah hop, il nous a fait perdre tant d'argent, on va récupérer notre argent sur son compte en banque.
Ouais.
Tu peux finir en procès, mais agré que t'as des gars de leur équipe qui, qui supportent ce que t'es fait. Quoi.
Bon, ok. Donc c'est compliqué. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que chaque situation. Ouais. Demande des précautions différentes, etc.
Ça, après, je pense que le maître mot, c'est prendre des précautions, montrer qu'on a essayé de tout faire de manière positive, ne jamais cacher, ne jamais menacer, ne pas faire du rançonnage. Ces exemples de personnes qui vont dire j'ai trouvé une faille, mais je te l'ai dit que si jamais tu me donnes de l'argent, ou est-ce que tu vas me donner de l'argent sur le lit ? Parce que par défaut, tu remontes ça, tu te crées dans l'opposition directement.
Tu te mets en danger, en fait. Potentiellement, t'es en train d'emprunter les mots d'un cybercriminel, en fait.
C'est ça.
Parce qu'il y en a qui, alors eux, ils vont peut-être rançonner différentes choses, peut-être plutôt des données ou des choses comme ça, mais tu commences à toi-même te tirer des balles dans le pied, quoi.
Ça, ouais.
Pour le jour où si jamais il y a un tribunal, et Dieu sait que ça peut arriver.
Il y a aussi la notion de à quelle vitesse tu vas reporter ton bug. Tu peux retrouver ton bug et dire je le reporte aujourd'hui, j'attends une semaine. Le problème, c'est que plus t'attends, si c'est eux qui te voient avant que tu sois signalé. Dire ok, mais pourquoi vous n'êtes pas signalé jusqu'à avant ou je
sais pas.
Donc ça vaut le coup.
C'est ouf,
Je connais même des hackers par exemple qui laissent dans le navigateur, il y a ce qu'on appelle le user agent qui dit au site web qui vous êtes. Enfin, il dit c'est Google Chrome, c'est Firefox. On peut le changer. Il y en a qui mettent par exemple leur mail dedans en disant j'ai fait les tests. Si jamais vous détectez une alerte chez vous, envoyez-moi un mail et on en parle.
Ouais, c'est hyper malin. Donc en fait, tu laisses une petite trace pour les logs du.
du service. Et puis au moins, tu rassures tout le monde. Parce que quand ils voient les alertes qui arrivent de partout chez eux, ils disent qu'est-ce qui se passe ? Ils regardent la requête, ils font ah, il y a un mail. A priori, c'est un mec qui fait de la recherche. A priori, il n'a pas essayé. L'objectif, c'est pas de nous détruire. Quoi.
Ouais, ok. Au moins, il est rassuré sur l'intention. Quoi.
Voilà, déjà.
C'est une super. C'est une idée vraiment géniale de rassurer. J'essaie pas de me cacher. Je suis pas un criminel et tout ça. C'est moi. Et, tu peux me contacter comme tu veux. Il n'y a aucun souci. On peut en parler et autres. Et ça. Ça fait monter descendre la pression des deux côtés et ça devient plus sain. Ouais. Et après, tu peux rapidement avoir une vraie conversation avec l'équipe de l'autre côté où il y a beaucoup de respect souvent parce qu'il y a une notion de.
Ils font le même métier en face souvent. Ouais. Enfin, ils font l'autre facette du métier, quoi. C'est-à-dire, mais c'est la même passion, donc les gens sont réceptifs.
Et pardon, je reste sur ton histoire parce qu'on veut le fin mot. Toi, au final, du coup, ils l'ont bien pris, ce grand opérateur télécom français. Ils ont corrigé. Ça s'est passé ?
Alors comment ça s'est passé ? C'est là où ça devient un peu haut parce que quand on parle de ces enjeux, du coup, moi je contacte aussi l'ANSSI et le COSI.
Qu'est-ce que c'est que l'ANSSI ?
L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité
et des systèmes d'information. Sécurité des systèmes d'information.
Et l'ANSSI qui est une entité et qui travaille aussi avec le COSI, qui est, je pense, un département de l'ANSSI ou je sais pas, qui est le centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information.
J'aime bien les acronymes.
Qui sont un peu plus dans le opération, tu veux remonter une faille et au directement, et tu peux le faire à eux.
Et donc, pourquoi tu leur parles à ce moment-là ? C'est quoi
Alors moi, je fais souvent.
La spécificité.
Je fais toujours très attention à. Dès qu'il y a des. Quand je remonte des failles d'une entité qui est assez grosse dans n'importe quel pays, de toujours aller chercher qui est le régulateur, on va dire, sur la sécurité dans ce pays-là, et de les mettre en CC ou en BCC. Et de faire en sorte que. On n'avait pas dire par la suite non tu n'as pas fait ça ou non tu n'as pas essayé et d'envoyer les mêmes informations des deux côtés parce que c'est aussi
en vrai envoyer ça directement ton mail qui les prévient en disant tout de suite en contact tu mets les autorités de l'État qui s'occupent de ça tu dis les gars moi j'essaie de faire ça bien
c'est ça
et je pense qu'en plus que la NSSI ils auront plus tendance à essayer de jouer un rôle de médiateur si ça se passe mal si ils sont dès le début dans la boucle
exactement tu fais pas si bien dire je crois
Parce que en fait comme les grands opérateurs il y a de grandes entreprises en France qui sont aussi protégées on va dire à l'État ou qui sont sous.
C'est des OIV.
C'est ça.
Les organismes à importance vitale.
Exactement. Et eux, alors, ils sont censés être secrets, ou ils ne sont pas censés en parler, mais en fait, tu peux les deviner rapidement. Si tu prends les grandes entreprises de logistique, de communication et autres, ce qui pourrait impacter le pays, si jamais il y avait une guerre ou quoi que ce soit, et si eux tombaient, comment tu pourrais créer une crise dans le pays si eux n'étaient pas sécurisés.
Tout simplement qu'il n'y ait pas du secret, mais la SNCF, ça fait partie de ces OIV. Si la SNCF, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça va créer des problèmes énormes dans tout le pays. Okay.
Donc en gros, c'est essayer de cadrer quelles sont les entreprises les plus critiques, quoi, d'importance vitale, c'est ça le terme ?
C'est ça.
Ouais. Et du coup, une fois que tu les as déterminées, et ben, tu leur apportes quoi ? Un soutien supplémentaire, en fait.
Alors, tu as des notions, je crois, d'audit de la part de l'ANSSI, mais tu as aussi beaucoup d'aides qui sont apportées et de façon aussi à s'organiser pour répondre en cas d'incident. Si jamais un jour, tu avais un gros problème de sécurité, on imagine une nation tierce venait s'infiltrer dans tes systèmes, et on a eu ces cas, cet incident de TV5 Monde il y a quelques années. Si vous avez l'occasion d'écouter, je crois, l'ANSSI a parlé publiquement par la suite au STIC, la conférence du STIC, est revenu sur cet incident, ce qu'ils ne font quasiment jamais, en détail, pendant plus d'une heure, et montrer comment ils ont répondu.
Qu'est-ce qui s'est passé à la TV5 Monde ?
Des acteurs internationaux ou d'autres pays sont venus taper à la porte de TV5 Monde et ont infiltré leur système. TV5 Monde, qui est une grande entreprise de télé.
De télé, quoi.
Et ont coupé toute la diffusion pour cette chaîne complètement pour une grande période de temps, ce qui est effrayant pour beaucoup de personnes. Savoir jusqu'où les personnes ont pu aller, et ça a beaucoup plus d'implications. TV5 Monde est aussi impliqué dans d'autres pays, font de la télé dans d'autres pays. Et du coup, l'ANSSI est venu sur place. Alors, je ne sais pas du tout pour les mots, si l'ANSSI, le COSI ou quoi que ce soit, mais ils envoient leurs équipes.
Le FBI, je crois.
Alors, j'ai cru voir dans le chat qu'ils se sont fait hacker par des caméras qui étaient sur le plateau.
Il y a certains éléments qui sont techniques. Alors, je suis pas sûr que ce soit la porte d'entrée. Il y avait d'autres portes d'entrée, tout ça. Mais évidemment, oui. Il y avait aussi c'est des caméras ou le matériel qui est en dessous qui s'occupe, ce genre de routeur pour caméra ou des choses comme ça. J'ai appris beaucoup de mots techniques à l'époque. Et aussi, l'ANSSI raconte à quel point ils ont aussi énormément appris sur le champ. Et c'est là qui est génial dans le milieu de la sécurité, c'est pouvoir intervenir sur plein de sujets ou de technologies qui sont différentes. fais toujours travailler sur ton cerveau, t'apprends tout le temps. Et t'arrives, tu connais rien, et t'es là, il faut apprendre et regarder comment les personnes ont pu exploiter cela. Et même pour l'ANSI d'arriver et de dire comment ça marche, une télé, comment. Et en fait, ils se font ces gens des formations ultra courte durée parce que les mecs, ils doivent commencer à répondre directement. Et voilà, donc l'ANSI, quand elle travaille avec ses OIV, j'imagine encore, il y a des choses qui sont documentées dans des textes de loi à ce niveau-là. Faire en sorte que ces OIV leur donnent une cartographie de leur réseau, maintenue régulièrement à jour. Comme ça, si jamais l'ANSI doit intervenir, qu'ils savent directement où aller ou puissent comprendre les différents systèmes, comment ils marchent, mais aussi pour les aider, les forcer à avoir certaines politiques de sécurité en place et autres.
Okay.
Et du coup,
je me dis quand, honnêtement, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui nous écoute parler. Peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'au limite, vous êtes parano, en fait, à protéger vos arrières, à réfléchir autant au légal, etc. Et qu'au fond, vous voulez que le bien des entreprises, les aider à avoir une meilleure sécurité, à corriger leurs failles. Pourquoi est-ce que vous faites autant attention?
En fait, on ne fait pas autant attention parce que, du moins pour moi, c'est parce que je vais rarement chercher sur des sites où je n'ai pas le droit dès le départ.
Ouais.
Donc déjà, ça t'enlève toute cette angoisse-là. Donc tu dis, là, j'étais autorisé. C'est eux qui sont venus me chercher pour me demander. Ouais. T'es peinard.
Ok.
C'est aussi une autre solution.
C'est effectivement le. Du coup, tu es en train de parler plutôt de bug bounty
bug bounty, mais même après, il y en a où, sans parler de bug bounty, il y a des sites. Je sais pas si y en a, pour les développeurs web, ils connaissent peut-être le human.txt qui va dire aux moteurs de recherche, vous avez le droit de fouiller ça, pas ça, etc. Ça, c'est pas
security.txt.
Il y a le security.txt qui fait la même chose. Il y a pas mal de sites qui l'ont. Pas assez.
En gros, c'est un petit fichier quoi où il y a écrit quoi dedans.
Contact, c'est le minimum, je crois que c'est un mail ou un truc comme ça. Et l'idée de dire, c'est si vous trouvez un bug, nous, on est open à ce genre de choses, contactez-nous, c'est là le contact.
Ok.
Et à partir du moment où il y a ça, en fait, déjà, tu peux te permettre de dire, je vais tomber sur un interlocuteur qui va comprendre ce que je vais vouloir lui dire.
Ça te rassure en tant que.
Ouais, je me dis en face.
Que hacker.
Ouais, tout simplement.
C'est clair. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'était d'expliquer aussi que toutes les entreprises ne le prennent pas comme ça. Toutes les entreprises ne le prennent pas bien.
J'aurais pas été serein avec ton histoire d'opérateur.
Oui, j'ai eu très peur. Hein, au même moment, parler d'un point de vue légal à d'autres personnes. Et
c'est paradoxal parce que tu viens de trouver un truc de ouf et tu vas aider à corriger un bug qui aurait pu être fatal pour énormément de Français. Quoi. Mais c'est ça, au moment où tu le découvres, tu as ce côté waouh, je mets le doigt sur un truc chaud. Quoi.
Moi, je me souviens, il y avait une petite partie qui me réconfortait aussi au moment où ça s'est passé, c'est qu'il y avait cette notion que les machines auxquelles on avait accès étaient sur mon réseau local. C'était sur donc ils avaient un peu fait merder l'internet. Enfin, ils n'avaient pas compris comment. Non, c'est pas l'internet, mais c'était un peu le réseau et c'était un peu dans ta maison.
Ouais.
J'allais pas en dehors de mon. Après, c'est eux qui sont ouverts à chez moi, tu vois. C'est un peu ça. J'allais pas sur internet. Donc, et c'est normal. T'as accès aux choses sur ton réseau local. Et j'avais d'autres machines moi sur mon réseau local qui étaient des IP qui étaient à peu près similaires. Et du coup, t'as des bugs. Donc, c'était un peu un edge case.
Ouais. Du coup, t'avais un côté un peu rassurant. Mais est-ce que. un petit peu rassurant. Mais est-ce que vous avez vous vous souvenez d'exemples de choses comme ça où des entreprises étaient peut-être moins accueillantes à ce genre d'informations? Est-ce que ça se passe à chaque fois bien ou en fait la boîte te dit merci pour le bug, c'est très gentil, à bientôt? Est-ce que parfois c'est différent?
J'ai pas l'exemple directement, mais l'histoire un peu d'Hollywood de tu finis en prison à cause du hacking et ensuite l'État vient te chercher et te propose de travailler pour eux.
Ouais.
Sauf que s'ils viennent te chercher en prison, ils vont pas te faire travailler pour des 100 et des 1000.
Ouais,
et
priori,
en plus,
déjà.
Ça n'arrive pas parce que ils ont tout intérêt à avoir des personnes éthiques dans leurs équipes. Et si t'as déjà fini en prison, bon, à part si c'est pour un cas comme ça où c'était improbable.
Où tu t'es, c'est toi qui t'es fait prendre au piège. Mais en fait,
tu finis pas en prison à ce moment-là.
Mais en fait, t'as plein de boîtes qui souvent, au lieu de remercier, collent un procès.
Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pour ça que je fais attention d'avoir. Parce que, alors, moi, où je suis un peu différent, c'est que je m'amuse souvent.
Vincent a eu 15 procès.
Non, mais.
12.
Mais je revois souvent des failles et je m'intéresse surtout aux banques, moi. Et surtout des banques, de temps en temps, qui n'ont pas de bug bounty programme. Peu de banques ont des bug bounty programme en réalité ou des fintechs qui n'en ont pas pour aussi les encourager à s'ouvrir plus à la sécurité et souvent à la suite de ça ouvrent leur bug bounty programme.
Ah,
font un programme de responsable.
Ouais.
Et mais oui, j'ai été accueilli de temps en temps avec des emails de du service légal ou d'avocat de personnes de l'autre côté ou de coup de fil en disant bonjour, est-ce que tu pourrais venir, et les personnes se présentent, blablabla, avocat blablabla, de l'autre côté directeur de je sais pas quoi, donc monsieur mon nom de famille, qu'avez-vous fait exactement? Et tu sens qu'ils sont là pour essayer de prouver le fait que tu as fait quelque chose de mal. Ils font... Et t'as des...
T'arrives, t'es reçu par un avocat qui te demande d'expliciter très concrètement ce que t'as fait.
Pendant un conf call, alors que la personne disait « on va te mettre en contact avec les équipes techniques et tu vas... »
Oui, effectivement, c'est assez louche.
Ah, mais c'est très... Et j'ai quand même vu aussi, moi, beaucoup de changements dans la façon où je remonte ces failles. Je sais qu'à l'époque, j'étais assez... j'étais très technique directement. Non, il y a la faille là, tu fais ça exactement et ça mène à ça et tu peux détruire. Enfin, non, ça a cet impact. Et j'ai énormément changé mon approche en mettant en tête que la personne qui va sûrement recevoir ses premiers emails, ça va être une personne qui n'a aucune idée du côté technique. Et elle, la première chose qu'elle a, elle a peur de est-ce qu'il y a un hacker qui essaye de pénétrer dans nos systèmes et qui va aller sur Twitter parler de ça et l'image de la marque va tomber. Les personnes ont peur au début. Donc, si jamais tu enlèves directement, tu mets beaucoup de contexte, de belles phrases qui expliquent ce qui s'est passé exactement. Tu ne parles pas de...
Je suis un hacker, cœur. Non, mais souvent, je vous aime.
Si tu n'as pas déjà un mail security at la boîte et que c'est juste contact, la première chose que tu fais, c'est que tu n'expliques pas le bug. Est-ce que vous avez quelqu'un de la sécurité avec qui je peux échanger?
Ah ouais.
Parce ça va régler beaucoup de
problèmes. Pour pas freak out.
Ouais, c'est plus simple.
La nana de la com. Ok.
Évite de parler d'encryption. Enfin, tu vas pas utiliser de l'encryption PGP ou.
Tu parles pas de trucs trop.
Et tu t'essaies. Enfin, t'essaies pas de faire toutes les choses. Genre, oui, mais la sécurité, on fait ça comme ça et autres. Ou c'est crit. Non, tu dis bah.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le contexte.
Et faut pas abîmer l'ego non plus, c'est important.
Tout à fait.
Parce que aller chez des boîtes et leur dire ah, vous avez fait ça mal, c'est moins bien reçu. Une subtilité. Ouais.
Vous remarquez que du coup, ça, vous devez adopter un ton qui est plus didactique pour que ce soit bien reçu. Mais vous, surtout c'est Vincent avec qui j'avais discuté de ça, mais la façon dont toi tu approches le truc fait que tu vas être plus ou moins bien accueilli en gros.
Tout à fait, t'as une énorme notion d'éducation. Hein. En fait, t'as l'impression de faire un taf que t'es pas censé faire.
Ouais.
T'es
un hacker psychologue.
Mais il y a énormément de psychologie dans tout le domaine. Hein. Mais tu vois à quel point c'est des personnes, de temps en temps, en retour, t'ouvrent les bras, mais j'ai des personnes par la suite qui, après, viennent toquer la porte. D'ailleurs, j'ai ce problème aussi. Et ça, je suis censé le sécuriser comment? Enfin, les personnes, une fois qu'elles ont confiance, un peu trop de confiance de temps en temps, donc tu dis gentiment, je ne prends pas la responsabilité de cela.
D'accord.
Travailler avec une entreprise pour faire ce genre de choses. Mais par contre, tu peux aussi, c'est à ce moment-là que tu peux ouvrir le message de bah, ce serait peut-être pas mal que vous mettiez sur votre site quelque chose qui dise comment remonter des failles de sécurité, ou ce security de TSC, ou des choses comme ça. Ou dans votre console, tu sais, tu ouvres en disant ah, si vous voulez parler aux équipes de sécurité, pour être un peu ouvert. Parce que, disons qu'il y a des personnes aussi qui sont, on va dire, grey hat ou black hat, et je vous assure qu'il y a des personnes qui, de temps en temps, ne sont pas des mecs ou des filles qui sont très clean d'un point de vue sécurité, et que s'ils voient que la boîte en question, elle est très ouverte à la sécurité et autres, et bah, de temps en temps, ils vont prendre le penchant de remonter la faille, parce que peut-être qu'ils vont avoir un bounty ou autre.
Et... Sur notre service de remontée de bugs anonymes, en fait, on en a énormément des bugs, et la plupart des gens qui remontent, ils ne s'attendent pas à recevoir de la récompense. C'est vraiment bénévolement, j'ai trouvé quelque chose... Je pense que ça serait mieux d'être corrigé parce que c'est un service que j'utilise, que j'apprécie et que je voudrais pas que ça soit là. On va dire justement, on a envie que ça s'améliore quand même.
Toi, dans tous les reports que tu as fait, Vincent, tu as changé de t'as eu des moments où tu as compris des choses, où tu as changé de technique d'approche.
Ah oui. Oui.
Qu'est-ce que. Je me dis, ça fait quand même plusieurs années, toi, je sais pas combien de temps ça fait que tu fais de la Sécu.
Ça doit faire. 12 ans.
Ah oui, ok. Bon. Bah, avec toutes vos années d'expérience, est-ce que, vous avez, d'un point de vue purement personnel, tu vois, est-ce que ça vous a appris des choses sur le rapport aux gens, etc. Sur tu me parlais, Vincent, de peut-être même sur l'humilité et tout. Est-ce que t'as appris des choses grâce au hacking?
Je sais pas comment toi t'es rentré dans la sécurité, mais moi je sais que au début j'étais, je pense souvent un certain niveau d'ego et d'orgueil, mais j'étais un peu, j'étais beaucoup dans l'opposition du sens, vous faites les choses mal, c'est si simple de pénétrer dans vos systèmes, vous êtes en ce genre de choses, et t'essaies d'apaiser un peu, et j'étais très ironique dans mes réponses de soi, et des personnes de l'autre côté qui essaient de poser des questions, et tu es un peu sournois dans la façon. J'étais sûrement odieux. Hein. Enfin, en vrai, j'ai lu certains emails. Ouais,
en fait, c'est facile de devenir odieux quand tu es chez toi en pyjama, posé dans ton lit avec ton PC, que tu es en train d'hacker une banque.
C'est ça.
Et t'as envie de te moquer un peu, tu vois.
Mais peut-être une sensation aussi de toute puissance, de dire que tu es dans ton canapé avec une couette. Et
tu fais tomber une société qui fait des millions. Quoi.
Ouais.
Moi, est-ce que
ça vient pas aussi un peu de la pop culture, mine de rien? Ce côté-là. Ce côté Mister Robot, parce que c'est ça qui fait Mister Robot.
C'est hyper récent, ça, au final.
Ouais, quand même. Et du coup, comment toi, t'as changé là-dessus? Parce que la conclusion, tu vas pas nous dire, oui, bah, je fais tout pareil.
J'ai tout volé, j'ai tout l'argent.
Voilà, tout ce qui est. Bah, c'est d'une part, c'est fatigant, parce que de l'autre côté, tu vas pas être accueilli à bras ouverts. Ah, on est nul. Ah, oh, bah, merci. Vincent, dis-moi comment je peux être meilleur. Apprends-moi.
Non. Soit mon nouveau dieu.
Oui, c'est ça. Non, la plupart des personnes, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui répondaient qu'ils étaient très tolérants, qui avaient beaucoup de patience en se disant, mais c'est ce petit con, en vraiment se posant la question. Et un énorme respect pour la plupart des RSSI d'entreprises qui doivent aussi travailler avec des personnes que, de temps en temps, peu importe, qui sont très jeunes ou qui sont un peu. Un peu imbérable, on va dire, remonte des choses et autres, et essayer d'accepter et d'être dans le respect des deux côtés. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que tu vas pas laisser une marque dans l'entreprise de l'autre côté si jamais tu t'arrives et t'es juste arrogant. Et après, c'est pourquoi tu fais ça. Ce qui t'intéresse, c'est vraiment de faire en sorte que ces boîtes fassent plus de sécurité ou qu'elles le prennent plus à cœur et qu'elles s'y intéressent plus. Et être dans l'opposition, ça va pas aider énormément. Oui,
en fait, c'est contre-productif parfois.
Et d'avoir une ou deux expériences dans lesquelles où c'est l'inverse qui se passe, de personnes qui commencent à te proposer, on t'a envoyé, même pas de l'argent, moi ce qui m'avait plus touché, c'était une banque en particulier, qui m'avait envoyé un colis avec des mugs, des t-shirts,
c'est trop mignon
par leurs équipes. Cool. Et ça, pour moi, ça a le plus de valeur que n'importe quel bug bounty que j'ai reçu en quantité d'argent et autres. Ça a 10 fois plus de valeur. Et cette notion
c'est trop mignon.
Super cool. Et c'était vraiment.
C'est trop chouette aussi sur les salons comme la Nuit du Hack où tu vas des fois voir les boîtes, ils font ah, mais c'est toi qui as reporté ce bug là et tout, bien joué.
Tu te fais un réseau de potes chez tous les responsables
ouais,
sécurité.
Sur tous les événements, là, c'est un petit monde finalement. Ouais. Et c'est cool de savoir un peu qui est partout, etc.
La Nuit du Hack, on l'avait couvert il y a.
C'est le hack maintenant d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Ça a changé de nom.
On dit la Nuit du Hack, mais c'est le hack. On l'avait couvert il y a 2 ans, je crois. On a fait une petite vidéo si ça vous intéresse de découvrir ce que c'est que cet événement francophone parisien même. Oui, c'est à Paris. Donc voilà, n'y allez pas si vous n'êtes pas déjà un peu féru de sécurité. Hein, vous allez vous emmerder. Mais si ça vous intéresse, que vous êtes peut-être un peu technique, que vous êtes développeur par exemple, ou que vous faites du réseau, sysadmin et tout, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé d'être un super méga. Hardcore tryharder du hacking. Oh là là, mon dieu. Bon, ne pas regarder. mais vous pouvez y aller, vous avez des talks hyper intéressants. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voir la vidéo si ça vous intéresse. Mon cher Bitka, tu es dans une team.
Yes.
Comment elle s'appelle?
The Flat Network Society.
The Flat Network Society. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous y faites? Et notamment, j'aimerais bien que tu nous parles d'un événement auquel vous avez participé, si je ne me trompe pas, de Google.
Ouais, alors nous on est The Flat Network Society, donc on a une team, oui, mais une team de quoi? Une team de CTF.
Okay.
Alors les CTF, qu'est-ce que c'est? C'est des concours de hack, donc c'est Capture the Flag. Le but du jeu, c'est que des équipes qui s'affrontent entre elles pour réussir un nombre de challenges, d'énigmes informatiques, on va dire.
Okay.
Et l'équipe qui réussit le plus d'épreuves gagne le plus de points et remporte le CTF.
Okay.
Et donc nous on fait ça depuis...
CTF, c'est un terme de gaming en fait.
Ouais, c'est vraiment Capture the Flag...
Moi, je suis pas le plus pro-gamer, mais, mais ça me dit quelque chose.
Et donc voilà, c'est la base, c'est ce qu'on appelle les challenges, les concours Jeopardy.
Ouais.
C'est une liste de questions. Mais aussi les concours qui s'appellent Attaque-Défense, où là, ça va être chaque équipe va avoir un serveur préconfiguré avec des services vulnérables.
Okay.
Et le but du jeu, c'est d'attaquer les serveurs des autres équipes qui ont les mêmes.
Okay. Pendant en défendant les siens,
etc. Et aller attaquer les autres.
Okay.
Ça, c'est cool aussi. Le problème, c'est que tu peux pas mettre ça en ligne avec des centaines de milliers d'équipes,
ouais,
parce que ça va pas tenir bien. Et que même toutes
donc
les finales que j'ai faites.
C'est plus privé, quoi.
Voilà. Et même quand c'est privé, bah, il y a des gens qui passent toutes. Enfin, des journées à s'envoyer des hacks sur la gueule, et forcément, c'est dur de maintenir une infrastructure qui tient bien. Malheureusement.
En gros, tu fous le feu à tout, donc forcément.
Ouais, c'est pas foutre le feu, mais tu peux envoyer trop de roquettes pour que de toute façon l'autre en face ouais, puisse plus jouer.
Tout ton réseau est pété. Attention à ton micro.
Pardon, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a des grandes règles dans ce genre d'événement, j'ai fait très peu de capture de flag, dans lesquelles ils disent tu ne peux pas faire cette quantité, ou est-ce qu'ils te limitent?
Alors, en général, c'est. Alors, pour les trucs où c'est des jeopardies en mode question et il y a une réponse, là, tu n'as pas le droit de toucher tout ce qui va être les infrastructures de l'organisation.
D'accord.
Par contre, c'est une épreuve, il y a une façon de la résoudre qui n'était pas celle qui était prévue. C'est fair game. Tu as le droit, tu peux y aller.
D'accord. Et est-ce qu'il te pénalise si jamais tu fais la première chose que tu disais, tu commences à toucher les...
Alors, souvent, il ne te pénalise pas, mais si tu remontes le bug, il te récompense.
D'accord.
Souvent, c'est juste assez de points pour pas que tu montes de place dans le classement, mais qu'en cas d'égalité, tu repasses devant.
D'accord, okay, super.
C'est cool. Le petit, de, ah ouais, petit c'est, bonus. C'est,
ça veut dire que ça se produit.
Ouais, ouais, ça se produit régulièrement.
Si ça a été anticipé, ok.
Mais nous, c'est arrivé sur des CTF où on arrive, on trouve une épreuve, on la réussit, donc on arrive à avoir accès du coup à une machine, c'était prévu.
Ouais.
Sauf que cette machine n'était pas bien protégée, on sort cette machine pour aller sur le parc entier, et là, on avait accès aux réponses de toutes les épreuves d'un coup.
Ah oui, effectivement, c'est là, un bon raccourci.
Ouais. Ah bah, ouais. Et d'un coup, au lieu d'avoir réussi une épreuve, tu as aussi tout.
Ouais. Alors, juste sur le terme capture de flag, je me figure que dans un jeu, c'est un vrai drapeau, par ouais, exemple. Comment ça se passe dans votre cas?
Souvent, ça va être une chaîne de caractères, donc juste un bout de texte, un mot de passe, en fait, ouais, qu'il faut récupérer et qu'il faut donner. Par exemple, il y a des épreuves qui vont être... Bon, on a créé ce logiciel, et pour se démarrer, il faut une clé CD. Il faut trouver une clé CD valide, et ça sera ça, votre flag.
Okay.
Ou un site web, par exemple, bah, le mot de passe de l'admin, c'est le flag.
Okay.
C'est toujours quelque chose comme ça, bon, qui permet de prouver...
C'est un élément secret auquel... T'as pas accès et faut trouver voilà, des moyens détournés pour le choper, quoi.
Exactement.
Ok. Et alors, du coup, ce Google CTF, vous y avez participé en équipe?
Ouais, on a participé du coup avec le TFNS, The Flat Network Society. On était 6 et l'idée, c'est que Google. Alors, c'était au départ une qualif ouverte à tout le monde
ouais,
par Google. Et ils ont pris les top 20 équipes, si okay, pas de bêtises. Et les top 20, on était invités pour une finale.
Stylé déjà.
Oula, ouais, déjà, c'était super c'est stylé.
Top 20 monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui participent à ça.
Ouais, ouais, bah celui-là, surtout celui-là.
Ouais.
Et ce qui était chouette, c'est qu'en fait, ils ont développé un jeu en 2D exprès pour l'événement.
Ok.
Et en fait, dans le jeu, toutes les quêtes du jeu, t'es obligé de hacker le jeu pour pouvoir les réussir.
D'accord. C'est un jeu ingagnable, du coup.
Bah, si, mais il faut pas tricher.
Pas, oui, c'était pas un hacker, quoi.
Voilà. Il y avait plein de petites choses, mais par exemple, il y a des endroits où il faut passer, c'est des sauts pixel perfect.
Ok.
Et t'es dans ton navigateur, c'est hyper compliqué. Donc nous, on a créé un bot qui détecte qu'il va arriver au bord d'un mur et qu'il faut qu'il saute.
Ok.
C'est tout bête, mais ça ouais, nous a fait gagner un temps fou. Il y avait un bug. En fait, quand dans le jeu on meurt, on réapparaît au point de spawn le plus près. Comme dans la plupart des jeux, en fait.
Oui.
Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé dans le jeu toutes les limitations des points de spawn les plus proches.
Ok.
Et quand on voulait aller plus vite dans le jeu, on pouvait s'en servir pour se téléporter.
Ça,
voilà, c'est ce jeu-là. Donc là, on voit les grilles, c'est les collisions que je fais apparaître. Parce okay, qu'en fait, il y a des endroits où on s'est rendu compte que des murs n'avaient pas de collision et qu'on pouvait passer à travers.
Ah oui, d'accord.
Alors ah, qu'on a oh, fait un speed hack aussi dans le jeu. Il n'était pas prévu par Google, celui-là.
Speed hack, c'est-à-dire que là, tu as un personnage qui marche.
Je vais plus vite, là, je vais 4 okay, fois la vitesse qui est prévue.
D'accord.
Vous avez hacké Google?
On a hacké Google.
Est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire comme ça.
Après, Google, ils ont tellement de services que ouais, c'est devenu ouais, un peu. Il faut avoir hacké Google dans sa vie. Si t'as pas hacké Google à 50 ans.
Tu t'as arrêté ta vie.
Oui, j'ai trouvé des trucs chez eux.
T'as trouvé
et après,
quoi
hacker Google, c'est pas.
Ça dépend quoi.
Ouais, j'ai des. Bah, j'ai rien dans CTF par exemple, je suis allé trop loin, je suis sorti d'une épreuve et je suis sorti d'une EVM.
Ouais.
Il y avait des problèmes de cache aussi chez eux, des conneries où j'avais accès à des comptes qui n'étaient pas ceux que je devais avoir accès. Mais...
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal, ouais.
Oui, c'est des bonnes choses. Mais
t'as
j'ai
pas trouvé un bug d'affichage quoi. T'as trouvé non, un truc non, un peu bah, sympa.
Des trucs qui
parce que le cache à l'échelle de Google, c'est pas dit.
Non,
bah,
c'est pas
le continent, là.
Ouais, c'est ça.
Alors, du coup, là, on a les, voilà, on a les collisions.
On a les collisions. On voit le grand trait noir, c'est la limite d'une zone où, de spawn, en fait. Si je meurs d'un côté ou de l'autre, je vais pas réapparaître du même spawn, en fait.
D'accord.
Donc là, on voit que je balade, je pose des clés, ça ouvre des portes. Et voilà, tout le jeu était basé là-dessus.
Ouais.
Et après, il y a aussi des épreuves un peu à l'extérieur, beaucoup plus techniques. Qui était moins visuel. Au départ, Google devait diffuser tous ces matchs, en fait, ont été filmés et commentés en live.
Ok.
Et ça, on attend toujours les vidéos. Tout le temps, on va leur envoyer un petit message sur Discord. Les gars, les vidéos.
Ah oui, parce que c'était combien? C'était 2019, 2000...
Ouais, c'était avant le Covid.
Ah oui, je crois. Oui, effectivement, ils se sont endormis.
D'ailleurs, on voit même là sur la vidéo qu'on a rajouté, j'ai rajouté des cases avec les numéros des grilles, parce qu'en fait, on était tous chacun chez nous, parce que notre équipe, on n'est pas tous français.
Ah oui.
Et ils se disent, il y en a qui me dit, ouais. La clé que tu cherches, elle est en haut à droite ou je sais pas quoi. Et on galérait énormément et j'ai fait, attendez, on va rajouter juste des cases. C'est tout con, mais on a gagné un temps fou juste avec ça. Bah, je suis en M8. Et bah ouais, okay. Je sais exactement où c'est.
Touché.
Voilà.
Ok. Alors, juste pour préciser sur le jeu en lui-même, là, on voit que c'est un navigateur. En fait, c'est un jeu web, quoi.
Ouais.
Parce que ça influe sur la façon de hacker aussi.
Alors, en
la
fait,
techno qui est utilisée.
Là, c'était un TTF qui était très très court. C'était qu'une heure et on avait le jeu une heure avant.
D'accord.
Donc une heure avant, on peut commencer à essayer de voir comment il marche. On avait déjà une première version du jeu qu' ils nous avaient envoyée qui n'était pas complète. Il n'y avait pas la map, il n'y avait pas les portes, il n'y avait pas plein de choses qu'on ne savait pas qui allaient être là. Donc on pouvait déjà se familiariser avec le moteur du jeu et commencer à créer les outils. Et dans la dernière heure qu'on avait juste avant, on pouvait corriger les derniers bugs et être sûr que tout fonctionne. Parce que sinon, une heure, c'est vraiment hyper court pour un concours. En général, on est plus sur du 48 heures.
Ok.
C'est quoi là
J'avoue qu'une heure, c'est vraiment incroyable.
C'est quoi la taille de vos boîtes à outils, on va dire, la quantité de petits outils que vous avez, qui ne sont pas propres à chaque CTF, mais que vous avez construit pour vos affinités, la façon dont vous travaillez? T'as combien de scripts ou de binaires
Déjà, j'ai tous les CTF que j'ai fait depuis que j'ai commencé en backup, donc j'ai tous mes scripts depuis toujours. Et de temps en temps, je me dis, ah mais j'ai déjà fait un truc comme ça en 2016, et je vais chercher, je trouve rarement, parce que je vais avoir tout, je les ai pas triés. Mais de temps en temps, je retrouve. Et d'ailleurs, c'est super marrant d'aller voir à quel point j'ai pu progresser sur pourquoi j'ai fait ça comme ça à l'époque. Après, il y a plein de. Finalement, il y a des petites. Moi, je fais beaucoup de Python, par exemple, quand je fais du CTF. Et oui, j'ai une lib, je fais un port bitka, des fonctions, par exemple, l'opération de XOR qui est hyper courante en CTF. Ouais. J'ai besoin de pouvoir la faire partout tout le temps. Je l'ai tout de suite à portée de main. Ouais. Après, il y a plein d'autres choses, mais il y a surtout aussi plein d'outils disponibles faits par les autres équipes. Qui sont là et qu'on utilise tous et qui sont finalement téléchargés. Il n'y a pas de truc top secret en fait, si c'est ça la
question.
La quantité de travail que vous mettez avant les CTF pour préparer tout cet environnement pour que le jour où ça arrive, vous avez... j'utilise ça directement.
C'est moins les outils, mais c'est plus l'expérience. C'est-à-dire que moi, ça doit faire 10 ans que j'en fais les CTF. Et quand j'arrive sur une épreuve, je me dis tout de suite, je vais avoir une idée de OK, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est ça parce qu'ils ont formulé ça comme ça. Ou tout simplement, les épreuves CTF, il y a quelqu'un qui a pris le temps de la développer. Donc, il a créé un faux site web, par exemple, à hacker. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, il y a un endroit où on peut s'envoyer des messages dans le site web. Et je me suis dit, le gars, s'il a développé ça, ou la nana, s'il a développé ça, il l'a pas fait pour rien. C'est du temps, c'est du temps passé. Et donc, je me dis, en général, si c'est développé, c'est que c'est utile à un moment quelque part dans l'épreuve.
Ok. Donc, l'expérience te permet aussi de connaître les habitudes ou les clés de cette expérience-là, quoi.
Puis, il y a une chose que j'ai déjà vue, parce qu'il y a des idées qui font. Des CTF, il y en a. Toutes les semaines, peut-être deux par semaine. Donc forcément, des épreuves qui vont se répéter, ce qui est bien aussi, parce que c'est permet aux débutants d'appliquer dans un contexte un peu différent des choses qu'ils savent déjà faire.
Oui, bien sûr.
Et après, il y a souvent des trucs nouveaux aussi, c'est ça qui fait le charme de ce CTF.
Les CTF, c'est capture de flag, on répète pour les gens qui y arrivent.
Et pardon, tu me disais juste avant, vous avez fait combien de captures de flag cette année?
Alors, en 2020, on en a fait 50, je crois, en tout.
What the fuck?
Alors, en 2020, on avait
chaque semaine. Tu
me diras.
On a fait, non, il y a même des week-ends, on en a fait deux temps pour le même week-end. On en finissait un et on allait taquer l'autre.
Est-ce qu'il y a un classement où vous pouvez vous comparer sur l'ensemble de ces épreuves-là?
Il y a un top mondial qui est auto-géré par les équipes.
Je le sais déjà, mais je vais te demander, vous êtes combien tième dessus?
On voulait faire top 10 et on a fait 11e.
C'est quand même hyper stylé, franchement.
2021.
11e monde, c'est quand même vraiment la classe.
Ouais, c'est qu'on est plutôt fiers de notre.
Bah, attends,
après, on est français, mais on a quand même un Polonais avec nous et un Coréen.
Ok.
Donc un peu de diversité.
Mais cocorico quand même. Du coup, là, sur cette épreuve Google CTF là, ça c'est. Donc tu nous parlais de quelques trucs que vous avez trouvés. Et du coup, vous avez réussi à terminer.
Alors nous, on a fini. On a fait les qualifs. Déjà, on a été repêché au qualif. Donc on était la team 21. C'est un peu notre spécialité.
Ouais.
Ils nous ont rattrapés parce qu'une équipe ne pouvait pas participer pour quelque soit raison. Et une première qualif, donc il y avait deux. Je sais plus. Enfin, on a joué contre quatre équipes contre nous.
Ouais.
Ils prenaient les deux équipes les plus rapides ou la plus rapide.
Ok.
Et c'est avéré que c'était nous. On a été sélectionnés pour la dernière finale contre les trois meilleurs. Là, on a fini quatrième, mais
avec
le sourire
avec les
honneurs. Vraiment content d'être arrivé jusque-là.
Et du coup, c'était toujours sur ce jeu-là, en 2D.
Ouais, c'était le même jeu. Ils ont créé une nouvelle map pour la finale avec des épreuves plus dures. et surtout plus d'épreuves, et surtout qu'ils ont pu voir le tooling qu'on avait fait.
Ouais.
Moi, c'est marrant, j'ai les rushs des vidéos de Google qui sont commentées, et c'est hyper drôle de voir les développeurs de chez Google et se dire qu'ils hallucinent sur les outils, parce qu'en plus, on faisait un retour vidéo de nos écrans.
Trop bien.
Et, y a le moment,
et du coup, en fait, eux, ils ont créé leur jeu et ils voient, ils voient une des équipes de jeunes qui sont en train de tout casser.
Par exemple, le speed hack n'était pas prévu, le fait qu'on puisse aller trop vite. Et dans la vidéo, ils sont là. Il y a une pause qui est marquée parce qu'en plus, on était plusieurs équipes à l'avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait nos recherches séparément et tout le monde a trouvé ça. Quoi.
Ah, c'est fascinant.
Et du coup, ils l'ont corrigé pour la finale. On a trouvé une autre technique pour le faire qu'ils n'avaient pas corrigé et okay. C'était quand même encore toujours possible.
Trop stylé. Bon, là, surtout, moi, je voulais que vous ayez un aperçu, en fait, de ce que c'est qu'un capture de flag, parce que c'est vraiment un truc qui est partout dans la communauté InfoSec. C'est vraiment, c'est pas anodin, quoi. Tout le monde passe par là. Enfin,
d'ailleurs, avant de finir sur le Google CTF, s'il y en a qui s'intéressent vraiment, sur YouTube, il y a Live Overflow, qui est un YouTuber de sécurité. Ouais. Et il y a une vidéo qui est hyper longue, elle dure 3 heures. Où en fait, c'est le live de toute son équipe avec leur micro et ils jouent le CTF en live. Okay. On peut revoir tout le Google CTF.
Donc, comme ça, vous pouvez voir un peu de l'intérieur comment ça peut se passer. Donc, ouais, le CTF, c'est un truc qui est vraiment hyper populaire dans la communauté de la cybersécurité, je me trompe pas.
Non.
Et donc c'est hyper intéressant. Surtout, c'est une manière de. C'est presque un jeu vidéo. Alors là, le truc, c'est que c'est très visuel, c'est pas toujours comme ça quand même. Non. Là, on a pris l'exemple le plus visuel pour pouvoir vous le montrer, que ce soit un peu sympa à la caméra. Mais honnêtement, c'est rarement aussi visuel que ça. Mais ça n'en reste pas moins marrant. C'était français ? Oui, c'est bon. Donc, essayez-vous au CTF. Il y en a des accessibles. Tu as des ressources ?
Alors, il y a des CTF qu'on va appeler All the Day.
Ouais.
Par exemple, comme les sites comme RouteMe, qui sont des épreuves de CTF et qui sont disponibles tout le temps. Vous pouvez vous inscrire et jouer. Et après, sinon, il y a le site CTF Time qui référence tous les CTF. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure du classement. C'est sur ce site-là, en fait, que chaque équipe va voter pour dire CTF-là, il était dur, on va lui mettre plus de points dans le ratio.
Là, c'est un peu les parties classées, quoi.
Voilà, c'est un peu les parties classées. Mais après, tout CTF, c'est ouvert à tout le monde, donc on peut jouer.
Okay.
La plupart des équipes publient les solutions quand ils ont trouvé. Je sais que c'est... En général, en CTF fini, c'est toujours possible de trouver la solution de quasiment toutes les épreuves.
Okay.
C'est super, donc on apprend plein de choses. Par contre, aller lire uniquement les solutions sans jouer... Oui. On n'apprend pas grand-chose au final. C'est se casser les dents dessus et se rendre compte de la difficulté.
Tu retiens beaucoup plus quand tu as passé 15 minutes à transpirer avant.
Des fois, CF que j'ai pas fait, on me dit cette épreuve était bien, donc je vais voir un peu la solution. Tu fais ah ouais, mais c'était facile, comme c'était évident. Et tu dis en fait, non, c'est jamais évident parce que si tu t'es pas cassé les dents dessus.
Tu te rends pas compte,
C'est comme n'importe quel cours à l'école. On prend des cours de physique et tout ça. Ouais. C'est des cours que tu apprends au collège, de trucs, et c'est des gars qui ont découvert ça à la fin de leur carrière et c'était hyper poussé, mais une fois que c'est compris et maîtrisé, c'est plus facile.
C'est comme quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un jouer par exemple à un jeu, tu as toujours l'impression qu'il est archi mauvais. C'est parce que t'as pas les mains dedans, t'as pas dans les mains dans le cambouis, tu sais pas à quel point c'est galère. Donc les CTF, c'est un bon exercice. Comment on peut faire sinon, si tout ce dont on a parlé là, ça intéresse peut-être des gens qui sont peut-être... Je pense qu'il faut être déjà un peu technique quand même. On commence pas la sécurité en se levant un matin, tu vois.
Je conseille qu'il faut d'abord apprendre à programmer avant de se lancer. Il y en a qui y arrivent sans, mais
en fait, c'est trouver des bugs. Ouais, c'est parce qu'ils apprennent en même temps, quoi.
Ouais, on peut apprendre en même temps, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est intéressant d'abord de comprendre comment les choses fonctionnent avant d'essayer de voir, de dérouter le fonctionnement de départ.
Bah, bien sûr.
Tu sais déjà pas comment ça fonctionne.
Tu vas pas aller loin.
Ouais. Nous, ça nous arrive de voir des gens qui nous rapportent des bugs. Ah, il y a un bug, et tu fais non, ça c'est un fonctionnement normal de l'application.
Ce n'est pas un bug, c'est une feature, et cette fois c'est pas une blague.
Voilà. Et c'est le fonctionnement normal.
Ok, donc apprendre à coder, on apprend quoi comme langage par exemple pour commencer ?
Ce que vous préférez. Après, on pourrait s'orienter sur des langages un peu plus web, on va dire, parce que c'est souvent par là que j'en commence, parce qu'il y a beaucoup de documentation, surtout par exemple tout ce qui va être JavaScript, PHP, de langage populaire, ça sert à rien d'aller trouver un truc de super expert.
Assembleur.
Il y a
du troll dans le chat.
On en fait énormément en CTF d'assembleur, mais
il n'y a pas besoin
d'apprendre l'assembleur pour se lancer. Si ça vous plaît, vous en ferez plus tard, mais ça va venir naturellement.
Ouais.
Je pense qu'il ne faut pas dire à quelqu'un commence par l'assembleur, tu vas voir, tu vas kiffer.
L'assembleur, c'est le langage peut-être le plus bas niveau qui existe.
On dit que l'ordinateur, il lise des 1 et des 0. En fait, il lise pas tout à fait ça, il lise plus des nombres entre 0 et 256.
Ouais.
Mais du coup, ça finit.
Qui sont des instructions.
Voilà, et ça finit en fait de l'assembleur, et c'est vraiment, on peut lire ce que lit la machine.
Ouais.
Donc pour faire des opérations très courtes, il faut lire beaucoup de lignes.
Ce qui s'éloigne le plus du langage humain, en fait. Donc il faut se lever tôt pour Enfin, moi, c'est ce que moi, je reste très loin de ces sorcelleries-là. Non, en vrai, c'est typiquement le genre de truc où je trouve ça fascinant. Tu vois les mecs en CTF ou un truc comme ça qui lisent le truc, qui font ouais, je sais exactement ce qui se passe.
Moi, je voulais aussi. J'ai une approche qui est vraiment différente. Et moi, je sais que je ne serais pas tombé dans la sécurité si j'avais été forcé de comprendre comment fonctionnaient les choses que je trouvais. Et j'ai toujours été la personne qui... Je trouvais ça pas intéressant si jamais je commençais pas par casser ou faire marcher la chose sans comprendre.
Ouais.
Et ok, après, ok, c'est intéressant, maintenant je veux comprendre comment aller plus loin, donc je suis forcé d'aller apprendre.
D'accord.
Et moi, il fallait une petite carotte ludique.
Exact. Et bien moi, sans cette carotte, je ne vais pas très loin dans beaucoup, beaucoup de domaines.
Ouais.
Et pour moi, la sécurité, c'est exactement la même chose. Et il y a une quantité de choses sur lesquelles... Enfin, je pense que c'est aussi très important pour les personnes de s'amuser avec la sécurité. Et c'est là où le capture the flag, t'as tout à fait raison. Enfin,
même avec tout, en fait. À partir du moment où tu vas apprendre quelque chose, si ça te pèse de l'apprendre, tu vas rien apprendre, en fait.
Et si jamais ça vous amuse aussi de regarder des tutos et d'aller à la toute fin, de copier-coller le code, de cloner le code et de l'exécuter, et ça marche, et si vous avez besoin de ça, mais faites-le. Et attendez pas à l'apprendre... Mais regardez tout. Enfin, il y a beaucoup de personnes moi qui ont souvent des questions. Comment je peux rentrer dans le domaine de la cybersécurité? Comment je peux faire ça? Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Allez regarder des forums, des outils, et vous n'avez même pas besoin d'apprendre le langage pour commencer à trifouiller et autres. Mais une fois que vous avez commencé à trifouiller, oui, vous allez devoir faire cet effort inverse.
Ouais, c'est plus pour devenir bon, en fait. Ouais, on va dire. Ouais.
Vous n'êtes pas intéressé pour devenir bon. Vous pouvez y aller direct.
Mais c'est la voie royale. Enfin, si vous avez l'occasion d'apprendre ces langages.
C'est venu un peu comme ça, en fait. C'est en commençant à coder tout ça sur les sites, ils te disent des tutos. Ils disent, bon, ne faites pas ça, vous allez vous faire hacker. Et c'est tout, ils te laissent comme ça, en plan. Je fais, mais moi, je veux en savoir plus.
Ouais.
Dis-moi ce qui va se passer. Et comment, pourquoi? Et c'est un peu ça qui m'a dit, et au final, même ça va dans les deux sens, ça se répond, parce que en hackant des services, je suis obligé de vraiment le comprendre pour aller jusqu'au bout. Et du coup, après, ça va améliorer la façon dont je code aussi, parce que j'ai une meilleure connaissance de comment fonctionne, par exemple.
En fait, un bon hacker et un bon développeur.
Bah, ça aide, en fait, dans les deux sens. Ouais.
Et tu dois avoir une belle compréhension de l'architecture de ce que tu construis. Nous, on voit énormément avec les chaînes 26, on a différentes équipes qui travaillent avec. Sur l'infrastructure, sur le produit et autres. Et nos équipes sécurité produit, on va dire, travaillent directement avec les ingénieurs et sont un peu des consultants avec eux. Et c'est des excellents ingénieurs informatiques parce qu'ils ont un besoin déjà d'être parler le même langage et de comprendre ce que l'équipe en face essaye de construire parce qu'ils ne sont pas là pour leur dire « tu dois faire les choses comme ça
ouais. ».
Ils sont là pour vous essayer d'accomplir quoi ? Leur conseiller « ah ben c'est peut-être pas la meilleure façon d'approcher ce domaine-là ». Et aussi de faire en sorte qu'eux trouvent la meilleure solution. Parce que tu as des experts de l'autre côté qui savent ce qu'ils veulent faire. Et ces personnes-là, si tu leur dis bah, « ça peut se passer », eux, ils vont dire « ah ben, c'est simple, on peut le corriger de cette façon-là ». Ils vont trouver la meilleure façon d'implémenter la sécurité. Et du coup, après, ils vont aussi t'adorer parce qu'ils vont faire « la sécurité, ça ne bloque pas ». Et les entreprises, lorsque la sécurité, ça ne bloque pas, ils sont très contents.
Ouais. C'est ça, en fait, de ce que je comprends, c'est ce qui est au cœur d'une sécurité réussie, c'est ce bon dialogue-là entre les gens qui ont le chapeau plus sécurité et les gens qui ont le chapeau vraiment développement produit. Quoi.
C'est toujours un peu une contrainte à des moments, parce que si tu fais tout ce que tu veux quand tu veux, c'est l'idéal, c'est le plus simple, tout est bien, mais tu vas finir par tirer une balle dans le pied. Quoi.
Ouais.
Et avec la sécurité, on est là pour essayer de dire attention, ça, peut-être pas le faire comme ça, mais on veut pas non plus être les flics à bloquer. L'idée, c'est de travailler ensemble et de trouver comment on peut améliorer la sécurité et, sans que ça devienne une vraie nuisance. Quoi. Et le truc, c'est que de toute façon, ça sera jamais 100% sécure. C'est pas possible parce qu'on écrit du code, c'est des humains, on fait tous des erreurs.
Ah non, mais pourtant, il y a plein d'entreprises qui disent qu'ils sont inhackables.
Bah parce qu'ils ils sont juste pas au courant.
C'est quoi le nom de ces entreprises?
Bon, je sais pas, il y en a un paquet. Hein. Vraiment, tu vois, mais d'ailleurs, c'est toujours hyper marrant de voir ce qui se passe ensuite en général.
Les wallets de crypto, il y en avait un qui avait annoncé on est inhackable. Il y a un mec qui arrive et fait regardez, j'ai Doom sur mon compte de crypto. Ils ont fait non, mais en fait, non, et du coup.
On est inhackable sauf pour mettre Doom en gros. Ouais, c'est toujours marrant de voir ça sur Twitter. La communauté InfoSec, bon, peut-être il y a des égos, mais il manque pas d'humour. Ça, c'est sûr. je pense qu'il y a une question que j'ai vue passer plusieurs fois. C'est une question qui peut intéresser quand on est dans le milieu, que peut-être on est encore étudiant, qu'on hésite entre les différentes voies à prendre. C'est la question tout simplement de est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est un milieu qui embauche? Est-ce que c'est un milieu qui gagne? Est-ce qu'il y a des bons salaires? Est-ce que c'est marrant? Vous avez la réponse à mes questions ?
J'ai oui, oui, non. Non, ça embauche, oui, ça embauche énormément.
Ok.
Je pense qu'il y a plein, il y a une même pénurie. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui galèrent à trouver des vrais experts dans ce milieu-là. Après, il n'y a pas beaucoup de formations. Ouais. C'est un peu le problème parce que c'est encore trop récent. Moi, j'ai pas de formation en sécu et j'imagine que toi non plus.
Je fais des études d'économie.
Voilà.
Incroyable.
Mais parce que
c'est fou quand même.
Parce qu'on pouvait, il y en avait pas en fait.
Ouais. Tout simplement.
Et c'était quoi les autres questions ?
Du coup, est-ce que il y a de la demande ? Oui. Est-ce que ça paye bien ?
Ça paye bien. Alors après, ça va dépendre de ce que tu vas faire, mais de toute façon, c'est souvent des postes d'ingénieur. Donc ouais. Je dirais que oui, ça paye bien.
En plus, c'est corrélé à la première question, parce que s'il y a une pénurie, ouais. Logiquement, ça veut dire qu'après, ça paye bien. Et juste sur la... Là, on parle de salaire, mais il y a des gens qui vivent seulement de bug bounty.
Oui, il y en a qui en vivent très bien. Je dirais pas que c'est la easy money, ouais. Get rich quick. Parce, qu'il y en a... parce qu'en fait, ça va dépendre... de tes performances que tu vas arriver à faire comme
c'est
argent.
C'est un peu la même différence qu'un salarié et un freelance, quoi.
Ah bah c'est complètement ça, c'est du freelance total et tu peux te casser les dents sur un site,
et trouver aucun bug pendant 3 mois. Quoi.
Et ouais, et ça va être une loterie un peu.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux être payé beaucoup pour un bug, mais il faut savoir que dans ces bugs-là, quand ils te payent par exemple 10 000 euros pour un bug, ils te payent aussi pour les 10 bugs que tu n'as pas trouvé et c'est le... ils payent pour ton temps en fait.
On voit souvent passer des gros montants.
Ouais, parce que les petits on les voit pas passer.
Voilà, les petits on en entend moins parler, mais quand même c'est intéressant de voir le prix d'une faille.
J'ai mis des petits exemples à la régie. Ouais. Si elle, alors, j'ai donné des exemples de cas concrets qui avaient remonté, ouais. des petits montants.
On va essayer, essayer de l'envoyer.
Un peu plus haut quand même, dans les 1000 quelque chose.
Ma question c'est quoi le prix d'une faille pour une très grosse entreprise ? Très critique. En gros, c'est quoi le top quand t'es hacker indépendant ?
Alors, il y a très grosses entreprises, ou est-ce qu'on parle de Twitter, Google, Facebook, ou est-ce qu'on les exclut dans les très grosses entreprises ?
Ouais, non, justement.
Google paye jusqu'à 31 000 dollars, okay. 1337 pour les failles critiques. Et après, ils ont redonné un bonus récemment, là, à leur top hacker de l'année, ils lui ont filé 100 000 de plus en mode allez, cadeau, t'étais.
Okay.
Mais je crois que ça, c'est pour tous leurs services. Mais ils payent aussi maintenant, pour les, par exemple, pour Android et pour Chromium. Je crois que oui, ça monte jusqu'à 1 million pour une faille.
Là, c'est pas eux qui les donnent 1 million, non ? C'est pas d'autres boîtes qui les achètent pour des États ?
Non, c'est pas Zerodium. Non. Il y a aussi, sur la partie hardware et les choses où on attaque sur le système d'exploitation Android ou Chrome, sur lequel c'est des... qui sont très très complexes et ils font très très attention parce que maintenant...
et qui sont à énormément d'endroits, donc qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
Exactement.
Et donc là, ils donnent plus d'argent.
Et oui, des montants qui sont assez faramineux,
ouais.
Et qui sont très rarement récompensés, c'est 1 million ou quoi que ce, ouais. soit. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est web, c'est plutôt dans l'histoire, en fait, au max 30 000.
Souvent, ils ont une grille de reward, ils disent bah, nous on paye 31 000 par exemple, c'est le max, mais après tu pars des bonus.
Ouais.
Et des fois, les bonus ils peuvent être énormes. Moi, j'ai déjà eu un bug, bah, pas assez de montants là, mais moi j'avais trouvé un bug, ils m'ont dit bah, votre bug, on vous le paye 4 000 euros. Et on vous met 6 000 de bonus, ouais. Parce que c'était stylé.
Ah ouais, le petit bug à 10 000, il passe bien, ouais, quand
ça
même.
Fait toujours plaisir, ça fait des
bonnes vacances. Moi, ça régale.
On utilise beaucoup les bonus, ouais, sur ce genre de choses, et c'est comme ça qu'on nous, on fidélise.
Mais ouais, oui, c'est ça,
les
en fait.
Et le nombre, enfin, on donne des bonus sur la créativité,
Moi, je le fais dans l'autre sens, j'envoie des petits bugs. Ouais. Si ça se passe bien, ouais. On va voir comment ça bosse ensemble, je vais passer plus de temps et je vais chercher.
C'est marrant aussi. On a ceux nous, chez nous.
Vous allez bien vous entendre, je pense.
Qui vont trouver un type de bug et ils savent ce que c'est la root cause. Et ils vont pas te remonter la cause mère du bug. Ils vont te remonter plusieurs éléments en espérant que toi tu vas pas te rendre compte qu'il y a une root cause. Comme ça, ouais. De plus en plus, ils en remontent. Il y en a plein de déductions, ouais. Et tout ça. Jusqu'au moment où tu la trouves la root cause. Il y avait un exemple avec une grosse boîte, je crois que c'était Shopify, à un moment qui ont des de sécurité qui sont hallucinantes, mais qui était sur la façon de sortir.
Je préfère, c'est le e-commerce pour tous.
C'est ça.
C'est le WordPress du e-commerce.
Okay.
Exactement. Ouais. C'est l'évolution de PrestaShop à un niveau un peu plus grand et où vraiment le client, c'est monsieur tout le monde qui veut créer son site de vente. Et je crois que Toby, qui est le fondeur, va dire c'est comment est-ce qu'on peut encourager une personne qui veut monter son commerce en 2 minutes.
Okay.
Il a son idée.
Et donc, quand tu es le e-commerce des e-commerçants, tu gères beaucoup d'argent, quoi.
Beaucoup de flux d'argent. Ils font des flux. Ils avaient des chiffres pendant le dernier Black Friday et c'était des quantités de milliards qui traversaient dans la même
journée. Ils ont une grosse équipe sécu.
Ils sont très importantes, mais ils ont beaucoup de produits différents.
Ouais.
Et il y avait une série à un moment qu'on regarde sur HackerOne, ce programme, et ce qu'ils avaient récompensé. Parce qu'il y a un type de bug qui est très critique, où ils payent dans les 20 000 quelque chose. Il y a une période où tu as une quarantaine de reports, ouais, et c'est 20 000, et c'est toute la même déclinaison du même type de bug. Ouais. Et à la fin, ils ont fait, bon, on a protégé tout le contour, comme ça, c'est plus possible.
Ils en avaient marre de se faire ruiner.
C'est un peu...
Oui, parce que alors, pour expliquer ce que t'étais en train de, ce dont tu parlais avant, c'est que parfois tu peux avoir un enchaînement de problèmes.
Souvent ça en plus.
Et du coup, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils te donnaient simplement un peu les conséquences, la couche, la surface, quoi. Et en réalité, ils remontaient petit à petit, ils te donnaient ce qui était le...
C'est ça. Mais ça normalement, ça marche quand c'est des petites boîtes, parce que leurs équipes sécurité s'en rendent pas compte et autres. Ouais.
Non, nous, vous le voyez.
Bah, on espère le pouvoir trouver rapidement et on a aussi des cas quand t'as une entreprise et d'autre côté t'as du rançonnage, les personnes viennent et disent j'ai trouvé une faille, je suis capable de faire ça et je veux je sais pas, un énorme montant et sinon je vais l'exploiter ou vendre quoi que ce soit et c'est génial quand tu prends ça en challenge de ton côté et nous on met toutes nos équipes sécurité directement et on fait bah
allez,
game on.
Et ouais, va la vendre. Où est-ce que tu vas la vendre? Sur quel marché de black market, de black hat tu maîtrises?
D'une part, mais c'est surtout que c'est très excitant de notre côté. Et quand tu te rends compte que c'est pas les menaces là, de temps en temps, il y avait des choses.
Ouais.
Eux savent pas vraiment si mais on le savait déjà ou quoi que ce soit.
Ouais.
Même de réussir à avoir les équipes qui le trouvent en une espèce de 2-3 heures, ils se mettent à fond dessus directement. C'est super intéressant. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais sur les montants, les salaires et tout ça. Alors, et c'est vraiment pour encourager les personnes. Pour être vraiment honnête,
ouais.
Les montants moi, que je vois dans le domaine de la cybersécurité, dans des boîtes qui ont plus de 3000 employés, même plus de 1000 employés ou autres, dans le secteur de la finance et autres, c'est des salaires qui sont très très hauts, je trouve. C'est beaucoup d'argent. Et quand j'écoutais un peu des salaires qu'on avait dans une émission la dernière fois,
ouais. On voit des salaires... On aime beaucoup l'argent ici, on parle beaucoup d'argent.
Très bien, mais pour moi, je pense que c'est aussi un domaine qui est très important pour des personnes pour être motivées de rentrer sur ce marché. Et c'est le choix des entreprises dans lesquelles vous voulez travailler. C'est le choix du créneau cybersécurité. Tu peux travailler dans la recherche de failles, tu peux travailler dans une organisation qui organise ces recherches de failles, tu peux travailler dans la boîte qui te passionne pour plein d'autres raisons que la cybersécurité. Tu peux aller un peu où tu veux en réalité. Et c'est toujours nouveau, toujours intéressant. Tu rencontres plein de personnes, tu rencontres des domaines et tu apprends sur tout le temps. Très bien payé, encore une fois.
T'as une idée de boîte comme ça au hasard hein, qui est intéressée par des gens dans la sécurité. Vraiment, c'est comme ça, quoi. Vraiment,
merci
au hasard.
Merci de me lancer cette énorme part. Alors, moi, pour donner à ce que j'expliquais un peu, et qu'elle est tout à fait au courant, une des grandes raisons pour laquelle je suis super heureux de ce projet, moi, une grande volonté que j'avais, c'était de montrer un peu un visage sur des réalités de la cybersécurité et rendre compte que c'est un domaine qui est très ouvert, aux garçons comme aux filles. Et qui recrute énormément et que c'est passionnant et vous n'avez pas forcément besoin de venir de la tech, vous n'avez pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur ou quoi que ce soit. Nous, la façon dont on recrute en ce moment, j'ai mis quelques annonces, on les publiera sûrement de notre côté. Donc là, c'est pour des infrastructures security engineers, c'est les personnes qui vont travailler avec ceux qui gèrent tout notre cloud. Donc là où il y a tous nos services, ou là où l'argent bouge chez N26. Donc c'est des environnements qui sont très sensibles et autres. Mais nous, on a des centaines et des centaines et des centaines de machines de partout, avec des softwares qui font des choses différentes de partout. Et comment tu fais en sorte d'avoir plein de niveaux de sécurité différents, d'automatiser la sécurité au maximum, de travailler en partenariat avec les équipes qui créent ces infrastructures et tout cela, et de construire tout cela. Après, tu as des équipes SRE, là, ce qui est en train d'être monté, c'est Site Reliability Engineering. C'est ceux qui créent ou qui vont construire les infrastructures elles-mêmes, dans tout l'engineering, et nous on en a qui travaillent spécialement avec les équipes sécurité. Par exemple, il y a des systèmes, ce qui s'appelle comme un SIM, qui reçoit tous les logs et les events de plein de services, donc des millions d'informations toutes les minutes et autres, de tous les events, tout ce qui s'est passé, et nous on les analyse directement et savoir, oh, est-ce que ça c'est faux positif? Tiens, lui il a fait ça à ce moment-là, il est 3h du matin, d'une adresse IP à l'autre bout.
Est-ce que c'est une fraude?
C'est de la fraude ou pas, mais même pour les systèmes internes. Si on a nos employés qui feraient des choses ou quoi que ce soit, on analyse tout. Et donc ça, c'est les personnes qui aident à construire ça. Et on n'a même pas besoin d'avoir des personnes qui sont dans la sécurité pour ça. On cherche des très bons ingénieurs qui travaillent avec des infrastructures et des systèmes distribués. Et on a aussi des offres de produits product security. Et eux travaillent plus avec les ingénieurs qui créent les softwares que vous utilisez quand vous êtes sur N26.
Et j'ai cru comprendre aussi, moi tu m'avais partagé ce lien au début, ça m'avait fait mourir de rire, que vous avez une façon de recruter un peu spéciale.
Tu parlais de CTF, la plupart de nos... Donc on a plusieurs étapes sur notre de recrutement. Et une des premières étapes, c'est on a un challenge qui commence avec un QR code que souvent on partagera un peu par la suite. J'ai essayé de le sortir, mais ça a été très compliqué.
On voulait le mettre sur un téléphone et tout en mode discret pendant
l'émission. C'est ça, mais je crois qu'il est, mais... vous allez sur notre Twitter de N26 et vous le trouverez. Ça commence par un QR code. Et c'est tout un CTF qui est... voilà.
Parfait, excellent.
Je ne sais pas lequel c'est, mais n'hésitez pas à regarder ça. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'étapes. Et vous n'avez même pas besoin d'apply chez N26, vous pouvez aussi commander.
Juste pour le fun, moi je l'ai fait. Hein. Je ne suis pas sûr que je l'ai fini, mais il est vraiment marrant.
Et moi je me souviens, dans la création, vous parliez de temps en temps d'un point de vue d'humilité ou quoi que ce soit. C'est que la dernière étape, à un moment, on l'avait remodelé et on avait un de nos ingénieurs qui avait travaillé dessus, qui a rajouté des étapes spécifiques. Et j'ai passé, je crois, j'étais assez content d'avoir fait beaucoup d'étapes rapidement. Ouais. Voilà. Et la dernière étape, bloqué complètement.
Aïe, aïe, aïe.
Et t'as un niveau sur l'humilité et tout ça. Et t'en es où, Vincent? Parce que t'avais l'air d'aller très rapidement et tout ça. Bah, on en reparle. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, pas beaucoup de temps à me pencher. Non, de temps en temps, c'est un peu complexe.
On apprend beaucoup. Là, je parlais des CTF. On s'est retrouvé dans un CTF en Chine, une finale pareille, avec 20 équipes. On arrive sur place et on s'est pris un mur, en fait.
Aïe.
Les épreuves, c'était. Alors, cette épreuve, c'est une faille sur GitLab. Pour le télécharger, c'est github.com/lastversion. Et là, il est faux, ok, ça quoi.
Tu dois trouver la vulnérabilité.
Ouais, c'était que des logiciels qui étaient à jour. Genre.
Ce qui peut normalement te prendre 2 mois quoi.
Ouais, en fait, c'est des gars, c'est une boîte de sécu. Ça fait 6 mois qu'ils font de la recherche.
Et incroyable.
Ils font tout leur bug en mode allez-y.
Maintenant, c'est les seuls à être paumés ou toutes
les plusieurs équipes, mais il y en a qui ont beaucoup réussi. Il y avait des épreuves, genre une, c'était un bug dans le navigateur Edge de Microsoft. Et ils ont dit, alors par contre, ce bug-là, vous gardez pour vous parce qu'il sera patché dans un mois. Et on vous donne juste le démarrage de comment faire planter le navigateur. Et maintenant, c'est à vous de finir. Des trucs hallucinants. Et pendant les qualifications, il y avait une épreuve de cryptographie.
Ouais.
Et le lien de l'épreuve, c'était visa.gov.us. Et du coup, on leur a dit, on les a contactés sur IRC, on leur a dit.
Non, mais les gars, vous forcez là.
On leur a dit, les gars, non.
Pour gagner, il faut hacker les 10 plus gros sites de la planète.
On va pas jouer. En plus, c'est quoi? C'est une blague? C'est un troll? Ils font, non, il y a vraiment un truc. Et les équipes ont dit, non, mais on va pas envie de finir en prison. Quoi.
Ouais.
Et du coup, ils l'ont enlevé. Et on leur a demandé après en Chine, quand on les a rencontrés, il y avait vraiment un truc qui fait, ouais, il y a une attaque de Padding Oracle là-dessus, tu peux récupérer. Du coup, toi, tu vas aller. Voilà, sur le site des visas des US.
Ah ouais, non, mais c'est complexe de faire ça. incident mondial généré à cause d'un CTF et autres.
C'est ouf. Donc non, on a râlé, on a dit non. Mais par contre, dans les épreuves, il y avait une épreuve où il fallait trouver une remote code execution dans CSGO, dans Strike Global Offensive. Où en fait, si quelqu'un rejoignait ton serveur CSGO, il fallait que tu puisses prendre contrôle de son PC complètement. Donc ça, à ce moment-là, Valve payait 12 000 euros pour ce genre de bug. Il y a des équipes qui ont trouvé ça en moins de 6 heures. Parce qu'on leur a juste dit, en fait, t'as regardé ce jeu? Et juste, j'avais jamais regardé de leur vie, mais...
En fait, voilà, tu leur donnes n'importe quoi, ils te trouvent des trucs de ouf. Incroyable.
Ou l'autre exemple super drôle, c'est que tu avais un logiciel qui s'appelle Bash, qui est quand même hyper courant.
Oui, voilà.
Et tu peux le lancer en mode restricted, Airbash, qui t'es vachement une espèce de petite jail où tu peux faire tout ce que tu veux. Et les orgas avaient trouvé une vulnérabilité. Et ils avaient dit, voilà, l'épreuve, c'est sortir de Airbash. Sauf qu'à la fin, en lisant les solutions des équipes, il y a eu 4 solutions différentes. Et du coup, ils ont contacté les gars. Et Bash, c'est sûrement le
super moyen de trouver des vulnes.
Mais qui est utilisé.
Je pense que c'est le plus utilisé au monde par les.
Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, Bash, c'est le truc noir avec les petites écritures vertes.
En fait, voilà, tous les programmes passent par là pour se lancer après derrière.
C'est impressionnant.
Et c'est trop cool, en fait. Quand les gens
parce
me disent
que la particularité normalement du CTF, c'est que justement, c'est un cadre un petit peu plus simple pour apprendre parce qu'on crée de toutes pièces des problèmes, on crée des bugs. Sur mesure, quoi. Là, non. Là, c'est des logiciels de production, quoi.
C'est ça. Il y avait un bug. Ils savaient qu'il était là. Ouais. Et souvent, ils t'orientent parce qu'ils savent très bien que tu vas pas faire 6 mois de recherche en 2 heures. Mais
c'est trop stylé.
Et ça, c'est de plus en plus. Hein. On voit de plus en plus maintenant d'entreprises qui essaient d'organiser des captures de flag spécifiquement pour leurs entreprises. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises, quand tu remontes une faille, il y en a une qui était remontée il y a quelques jours chez GitHub, où ils plantent des flags dans leur infrastructure de façon à ce que les personnes qui trouvent ces failles-là n'aillent pas chercher et fouiller partout. Et en fait, pour être récompensés, il faut qu'ils aillent chercher ce flag-là. Et ils font aussi des événements où...
Attends, juste pour expliquer, c'est comme si genre, moi, sur mon ordi, je mettais sur le bureau, si t'es un hacker, regarde ici. et avec un petit mail en mode préviens, écoute, si tu arrives à arriver sur mon bureau,
c'est littéralement ça.
Préviens-moi. Et c'est ça qu'ils font.
C'est exactement ça.
Tu laisses un fichier texte en disant s'il vous plaît, ça. Si vous arrivez là. En fait, aussi, c'est que sur les serveurs, quand tu as l'habitude, tu trouves après les mêmes fichiers au même endroit tout le temps. Et si tu as un fichier vraiment à la racine de ce que dure dans C, on va dire pour Windows,
ouais.
Tu sais ce qu'il y a dedans quand tu es à la carte. C'est toujours le même dossier, mais si y en a un qui est différent, tu vas tout aller voir ce que c'est, surtout s'il s'appelle.
Dis-moi.
If you can read this, if you can see this file, open me, des choses comme ça, tu vas y aller quoi.
T'avais une petite histoire comme ça du YouTuber que vous ai montré live, de Live Overflow, où il parlait des failles qui avaient été trouvées par un chercheur sur l'infrastructure cloud, Google Cloud, qui est l'équivalent de AWS de chez Google, et le chercheur en question commençait à regarder pour rentrer dans, on va dire, les serveurs de Google Cloud, et dans sa recherche, à un moment, il trouve un petit message posé par les équipes SRI, ceux qui maintiennent tous les serveurs, qui lui disent salut, on est là. Fais attention de ne pas faire ça ou quelque chose comme ça. Il lui laisse un petit message ou contacte-nous par là. Et du coup, il envoie un petit message. Mais c'est marrant de voir de temps en temps ces relations où les deux équipes ou les deux personnes
se rencontrent à un endroit assez impromptu.
Oui, c'est ça.
La team de Verizon sur les events, ils font ça. En fait, ils font des events où il y a bug bounty où c'est sur place. Et ils disent s'ils sont obligés de se lever, d'aller sur ton PC, te dire stop, arrête tout. Un bonus de $1,000.
Trop
fort. Si tu surveilles, en fait, il te laisse un peu jouer avec le truc et tu vois qu'ils se rendent compte que tu vas trop loin.
Tu vas trop loin.
Ils viennent te chercher.
C'est à mourir de rire. Une question que j'avais, on va peut-être prendre quelques questions aussi du chat si on a encore un tout petit peu de temps. Une question que j'avais pour toi, Vincent, c'est que comme toi, tu as plus le côté marque, donc tu vois, tu es un peu de l'autre côté de la barrière, quoi. C'est quoi, je sais pas, si, je pense pas que tu puisses dire de trucs précis, mais. Est-ce que ça représente un montant important pour une entreprise de créer un bug bounty? Parce que mine de rien, un bug bounty, pour rappel, c'est des gens viennent te voir et te trouvent des vulnérabilités, tu leur donnes de l'argent. Potentiellement, ça peut faire peur pour une entreprise parce que tu dis, attends, imagine, on a 1000 bugs, je dois tous les récompenser. Est-ce que je vais pas devenir ruiné? Comment ça se passe?
Pour être très sincère, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup N26, c'est la façon dont on approche la sécurité et on n'est absolument pas les seuls l'approche de cette manière-là. On a aucune, enfin c'est nos limites sur nos bug bounty.
Ouais.
Le jour où il y a des personnes qui viennent nous remonter 50 vulnérabilités critiques et qu'on doit payer le maximum, mais on le fait avec le plus grand plaisir.
Ouais.
Et c'est
ce qu'il faut se dire que c'est potentiellement de l'argent gagné sur ce qui aurait pu se passer
par rapport au vrai problème qui peut arriver. Ouais. Quand tu vois des hackers qui se font récompenser par exemple $100,000 pour avoir hacké des trucs dans Google, s'ils sont éteints une journée, ils perdent pas $100,000. C'est des sommes énormes.
Donc en fait, c'est un investissement qui peut être rentable.
Alors c'est ça, au moins... Enfin,
puis après, surtout encourager aussi, je pense. Enfin, quand t'as un chercheur qui trouve des trucs sympas, t'as vraiment envie qu'il continue en fait à chercher chez toi. Tu dis, mais ça, c'est quelqu'un que je pourrais sûrement jamais embaucher parce que s'il est en freelance, c'est... Parce que c'est un profil de freelance. Et du coup, le seul moyen de le garder un peu chez toi et qu'il bosse pour toi, c'est un peu cette carte-là. Quoi.
Moi, je reportais des failles chez N26 et à un moment, ils m'ont dit... Ça nous coûterait peut-être moins cher de.
Oui, ça peut être un moyen de se faire recruter aussi. En fait.
Moi, on m'a contacté. J'ai refusé le poste. En fait, je leur ai dit t'as trouvé beaucoup de bugs chez nous, on t'avait envoyé plein d'argent.
Tu veux pas venir.
J'ai fait allez, ce mois-ci, j'ai gagné tant chez vous. Est-ce que vous me payez comme ce montant par mois? Ils m'ont fait non. Je suis alors non.
Voilà. Ouais, c'est marrant.
Mais ouais, du coup, sur les montants, moi, c'est aussi quelque chose sur lequel on n'arrête pas de les augmenter. Et qu'on a très peu de barrières chez nous lorsqu'on a ces discussions-là en interne, et on veut l'encourager, parce qu'il y a aussi ce qui nous fait le plus peur en réalité, c'est pas le fait qu'on nous remonte des failles, c'est qu'on nous remonte des choses que les personnes pensent c'est des failles, mais c'est pas des failles. Donc c'est quand ça fait ce qu'on appelle du bruit ou du noise, où t'as des faux positifs, où les personnes croient, et ça prend beaucoup de temps, c'est là où tu peux perdre beaucoup de temps. Au pire,
tu dépenses de l'énergie.
C'est ça. Pour expliquer, pour créer la relation avec les personnes, pour leur dire non, c'est pas une faille pour cela et tout ça, et quoi que ce soit. Mais pour récompenser des personnes avec grand plaisir. Et c'est aussi le fait que c'est reconnaître que c'est impossible d'avoir des CM qui soient parfaits. Et être dans l'inverse, se dire non, on ne récompense pas ça parce que ça n'existe pas.
C'est la technique de l'autruche dont on parlait.
C'est ça. Donc oui, venez trouver des failles chez N26, essayez, et c'est génial. Et pas que N26, allez sur ces plateformes, Yes We Hack, HackerOne.
Des programmes publics, par exemple, où tu viens, tu rentres ton nom, ton prénom, tu t'inscris et c'est parti, tu peux commencer.
Peux déjà commencer, ouais. Pas besoin d'être accepté dans un truc privé et tout, c'est intéressant. En tant que, quand t'es plutôt côté cybercriminel,
C'est pour toi que tu parles ou...
Oui, bah, bien sûr. Voilà. Moi, quand je mets ma capuche la nuit. Non, ma question, c'est... Là, on a décrit comment fonctionnent les gens qui restent dans le cadre légal. Donc, ouais. C'est-à-dire que si tu es intéressé par le hacking, tu peux gagner de l'argent comme ça. Donc, en faisant des bug bounty. Voilà. C'est quoi, en fait, les marchés parallèles qui existent, ouais, sur les vulnérabilités? Parce qu'une vulnérabilité, tu peux te faire payer par Google, par exemple, si tu as trouvé une faille chez eux, ou par N26, si tu trouves une faille chez vous. C'est pas les seuls endroits où les failles se monnaient.
C'est pas simple. En fait. De mon expérience, je serais, ouais, heureux de savoir ce que tu vois de l'autre côté, parce que c'est vrai que les plateformes où on peut vendre, il y en a une qui est très connue qui s'appelle Zerodium et qui
sont spécialisées dans légal.
Du coup, Zerodium, c'est quoi?
En vrai, tu trouves une faille dans un système et au lieu de la remonter à l'entreprise ou la boîte en question, tu la remontes à cette entreprise tierce, ouais, qui, elle, décide d'en faire ce qu'elle veut et qui, ça peut aller souvent à la vendre à un État qui a des...
Bah, quand tu achètes des bugs à 1 million, il faut se demander qui peut payer plus que ça pour acheter le bug de l'autre côté.
Voilà, pour faire du contrôle et du...
Alors, on parlait d'éthique, ouais, je pense que ce genre de site...
On ne sait pas où ils sont, quoi. On se doute, quoi.
Non, mais si tu as beaucoup d'éthique, tu ne peux pas vendre à ces genres, ouais, de sites.
Parce que du coup, eux, ils achètent certaines vulnérabilités jusqu'à 1 million. Je crois que j'ai vu des trucs, par exemple, sur iOS ou des choses comme ça.
Il y a beaucoup, de marketing. Ouais. Voilà.
Et donc, logiquement, comme tu dis, s'ils payent autant, c'est pas qu'ils vont, ils vont pas aller voir l'entreprise et leur donner des gentils conseils pour qu'ils deviennent plus sécurisés. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut supposer?
Vendre à des États.
Ouais. Et les enseignements.
C'est ça, ou souvent des États qui n'ont pas... La plupart des États, certaines tailles, ont investi dans des équipes et donc souvent n'ont pas forcément besoin de passer des entreprises comme
ils
ça.
Ils font déjà de l'offensif, en fait.
C'est ça, exactement. Il y a des États qui sont plus petits, qui n'ont pas ces moyens-là, et du coup, ils peuvent acheter directement ces vulnérabilités-là, soit que leurs équipes de leur côté, simplement... Okay.
C'est un peu des mercenaires de la cyberguerre.
Là, ils vendent des armes, en fait. Ouais. Je pense que...
En fait, c'est ça l'équivalent. Si on prend la guerre et la cyberguerre,
oui, c'est des vendeurs d'armes.
C'est ça.
Donc c'est légal, après. Légal, ouais. 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 Si c'est ça la notion que tu cherches, c'est légal.
Non, parce que là, du coup, ça, c'est. Ceux-là, ils sont plus que border, on sait pas trop.
Non, c'est
trop,
ça.
Voilà.
Moi, c'est grave border.
Très, très border. Moi, ce que j'avais en tête, c'était même des plateformes parfaitement illégales de marché noir. Ça existe, ça, je crois.
C'est ça, mais par contre, c'est là où moi je serais heureux de ce que tu vois de l'autre côté. Nous, ce qu'on voit énormément chez N26, il n'y a pas que chez N26, hein, c'est dans la plupart de tout ce qui est boîtes qui vendent un produit à des clients finaux sur Internet. Là où on voit souvent du marché noir, c'est pas tellement dans la cybersécurité de personnes qui vont vendre des failles, comment hacker N26. Okay. Et c'est assez simple, la raison derrière qui est... D'une part, lorsque les personnes disent « Oh, je vais hacker une banque et je vais voler de l'argent », encore une fois, la réalité n'est pas « tu hacks la banque et l'argent, tu la prends et tu la mets dans ton... » Il y a tellement de niveaux de sécurité, ouais, et de mécanismes et de systèmes opérationnels et autres. Et donc, ça ne prouve pas, même si tu arrives à faire la transaction sur ton compte, ça, ouais, ne veut rien dire qu'elle se passerait réellement, ouais, et okay, plein de choses. Donc, la fraude, en fait, il y a plus de fraude. Donc, c'est là où il y a souvent des black markets. Hein, et c'est pour ça qu'on voit souvent, vous voyez... De boîtes qui recrutent, vous voyez souvent des personnes dans des teams comme Trust and Safety, fraude, anti-money laundering, lutte contre le blanchiment d'argent et tout ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont malicieuses, qui n'ont pas, se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin simplement d'avoir la connaissance technique pour abuser le système, ou pas très poussée, ouais, mais qui peuvent essayer d'abuser la logique à grande échelle. Pensez, imaginez que vous ayez...
Cartes bleues, par exemple, le business des cartes bleues. Voilà. Quand les gens, les hackers, quand ils s'échangent des cartes bleues, je dis plus pirates que hackers, ouais, les pirates, quand ils s'échangent des cartes bleues, en fait, ils se les vendent pour quasiment rien. Ça coûte, on va dire, 10 euros une carte bleue avec toutes les infos sur le net. Et en général, tu vas aller voler 20 euros dessus. Après, comme ça, tu l'as et t'en achètes 1000.
Et t'es rentabilisé, ouais. C'est ce qu'on appelle le carding. On en a parlé aussi, voilà, si vous voulez, sur ma chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée.
Si tu voles 2000 euros à quelqu'un, il va s'en rendre compte tout de suite et ça va créer plein de procédures, etc. Alors si tu voles 20 euros à 10 000 personnes, ouais,
c'est là, exactement,
ça passe à travers plein de trucs. Et la police, même s'il y en a qui s'en rendent compte,
en fait,
il y en a qui vont, ouais, se rendre compte des 20 euros qui manquent. Ils vont aller voir la police, ils vont faire, ouais, mais...
Donc, ouais, en fait,
et sur les entreprises payent le prix. Ouais. C'est là où, de l'autre côté, là, c'est, voit
c'est
vraiment,
la banque qui...
C'est la banque ou même d'autres milieux. C'est eux qui vont payer et prendre. Et c'est là où ça peut coûter bien plus aux entreprises. Mais c'est vrai que moi, un grand shoot-out, un grand message d'appréciation à toutes les personnes qui aussi travaillent pas dans ces personnes qu'on dit des anti-hackers où ils font toute la sécurité, c'est super shiny et tout ça. Il y a une quantité de travail qui est fait et super intéressant. Et nous, on le voit aussi chez N26, dans utilisant des technologies de machine learning et autres, des comportements et tout cela. Et des méthodes d'une créativité. Et c'est un jeu du chat et de la souris sur lequel je suis impressionné par le talent des personnes qu'on a dans certaines de nos équipes à trouver toutes les façons de détecter des comportements frauduleux sans que les personnes de l'autre côté puissent comprendre ce que nous on a détecté. Comme ça, ils peuvent pas simplement changer la petite chose et hop, on peut bypasser.
Ça fait penser aux anti-cheats dans les jeux vidéo, par exemple.
Exactement là. Et c'est toujours faire très attention. Il y a énormément de philosophie, de méthodologie. Parce qu'au final, de temps en temps, il y a aussi des guerres dans le sens où est-ce que tu as besoin d'avoir le système de sécurité parfait pour la fraude ou est-ce que tu as besoin d'avoir un niveau qui les force à aller taper chez quelqu'un d'autre. Et il y a aussi...
Mais c'est vrai que moi je dis toujours, faut être juste supérieur à ce qu'ils vont te voler, mais toi tu dis faut être supérieur aux autres comme ça. Ouais. Faut pas être le plus lent du groupe quoi.
Alors, c'est pas le si tu te fais poursuivre par un lion, il faut courir plus vite que ton voisin.
Ouais, c'est pas ça. Mais c'est aussi une approche.
C'est, pas c'est absolument pas l'approche qu'on va essayer d'avoir sur le long terme. Mais... Jamais. Et on va essayer de venir au maximum. Mais t'as plein de façons où quand t'as des différents types d'attaques qui arrivent ou de comportements, tu vas dire bah, tu vas pas directement en prendre un seul. Oublier les trois autres et les laisser être abusés, essayer de le résoudre parfaitement.
Incassable.
Tu vas monter le niveau progressivement à un niveau qui va vraiment diminuer l'impact directement et sûrement pousser les personnes à retravailler leur côté. Ça donne du temps pour t'adapter directement et directement.
Une approche intelligente de ta progression en sécurité. Quoi.
Ah ouais.
Non, franchement, c'est passionnant comme sujet. On pourrait vraiment discuter toute la nuit. J'ai vu pas mal de questions, notamment des questions qui sont peut-être un petit peu trop techniques et précises sur un sujet technique. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous avez les ressources dont on a parlé avant. Vous avez peut-être la chaîne de Live Overflow qu'on a mentionné aussi, qui est anglophone, mais où vous aurez un petit peu plus de dur. Voilà. Et mes vidéos qui sont pas les plus techniques du monde, mais où il y a un petit peu de sécurité de temps en temps parce que c'est cool. N'oubliez pas. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. C'était vraiment très sympa. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas de suivre cette chaîne Twitch, de vous abonner à la chaîne YouTube où vous pouvez découvrir des extraits condensés si vous êtes arrivé en cours de route, que vous avez raté des choses. Vous pouvez avoir des versions comme ça, 15-20 minutes, des lives, tout simplement. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Où est-ce qu'on peut vous suivre, vous deux ?
Twitter, Bitka, underscore.
Bitka, Twitter. En plus. Underscore.
Underscore.
Oh, ce n'est pas une coïncidence.
Le underscore magnifique. Et bah pour moi, si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez me rencontrer chez N26, vous pouvez apply et suivre notre process de recrutement, rejoindre nos équipes et je vous rencontrerai avec grand plaisir à Berlin, en Allemagne, et on sera heureux de vous accueillir.
Quel vendeur.
Moi je viendrai en tout cas.
Non mais réellement, on est très heureux de faire partie un peu de ce projet. On aura peut-être des personnes de Nancy, je sais pas, qui passeront. On essaie de trouver des personnes un peu techniques. Et encore, merci beaucoup.
Merci à toi, Vincent.
Michael, c'est merveilleux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on voit les retours.
C'est que le début de cette aventure, mes amis. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Très bonne soirée. Salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.